Dynamique Radio, bonsoir à toutes et à tous, c'est la Libre Antenne, ce soir en direct avec toute la team autour de la table, nous avons Zaza, bonsoir Zaza.
Alors attends Zaza, que je t'allume ton micro.
Ça marche mieux quand c'est allumé,
ouais,
bonsoir,
c'est ça.
Bah oui,
c'est
bonsoir
comme,
à tous.
C'est comme les hommes, ça marche mieux quand
c'est
allumé.
Exactement, tout à fait.
Voilà. Il faut les allumer de temps en temps.
Absolument.
Il faut mettre le feu.
Tout se passe bien.
On adore, on adore.
Vous l'avez entendu, il est avec nous. Colonel, bonsoir colonel.
Il faut mettre le feu.
Il faut mettre le feu.
Alors, le feu.
Qui met le feu? On va y répondre.
Qui tire le premier? Qui tire le premier?
Voilà, qui tire le premier? C'est ça, c'est une question. Avec nous autour de la table aussi, on va faire par ordre d'âge. Stan, bonsoir Stan.
Oui, bonsoir, je m'entends bizarre.
Oui,
m'entends
oui, parce que tu parles toujours comme ça.
Mais je m'entends pas.
Bah, t'es à fond, on a fait les tests pourtant avant
bonsoir.
L'émission.
Oui, bonsoir, bonsoir.
Bonsoir, comment ça va?
Oui, j'ai la voix un peu, tu vois.
Un peu, ça va la forme?
Ouais, très bien, et toi?
Bah oui, écoute, tout à fait. Tout va très bien.
Tout y va bene?
Tout y va bene. Il y a Yann qui est avec nous. Bonsoir
Salut
Yann.
Salut tout le monde, bonsoir.
Il est venu en trottinette.
Et je suis venu en trottinette.
Et entre deux films, hein, attention.
Attention, et 40 minutes de trottinette.
Ouais, c'est ce que j'ai cru comprendre. 40 minutes de trottinette et il fait froid en ce moment,
il
paraît.
Il caille.
Il caille, il caille, il caille. Et puis, bah, pas d'accident non plus parce que on sait que les trottinettes, ça peut être dangereux de temps en temps.
Je suis déjà à ma troisième trottinette sur Paris.
Ouais, Ouch. Trois trottinettes.
Deux trottinettes déjà accidentées.
Oui.
Aïe, 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 aïe.
Et puis, on l'attend depuis plusieurs mois.
Plusieurs années.
Il est intervenu régulièrement comme ça, par hasard. Il nous suit aussi, donc c'est super parce qu'on a au moins un fan
Très
fidèle auditeur qui nous suit régulièrement depuis notre venue dans ce studio.
Même avant.
Okay, ah oui, en effet, oui. Il était fan des lives Facebook, notamment.
Ouais,
ça, il kiffait.
Ouais.
Il kiffait, il kiffait. C'est Mikey. Bonsoir, Mikey.
Bonsoir, tout le monde.
Ça va?
Oui, très bien.
Mikey.
Il découvre Paname.
Oui.
Ouais, alors, hein, les transports en commun.
C'est génial.
C'est génial.
Il a l'air hyper enthousiaste.
Ah, il a l'air enthousiaste. Il a hâte de retourner dans sa région natale.
La campagne là-bas.
Oui, là où il est.
Aller chercher des homards.
Oui, et puis là, il est en mode célibataire parce que Mikey, on sait que tu es en couple.
Oui.
Hein, on le précise.
Marié, ouais.
Marié,
même.
Marié, ouais, d'ailleurs. Même marié.
Oui, marié.
Même Godoy avec un enfant.
Divorcé
hein,
bientôt, peut-être.
Enfin, j'ai plus ma batte parce qu'elle est tombée dans du ciment quand j'ai fait le mur, mais...
Non.
Ah bah voilà. Ah bah voilà.
Mais au moins elle est dans le mur.
Elle est dans le mur.
Ça c'est génial.
Ça, c'est le jour où on fait les travaux. Ouais.
Le jour où tu le casseras, tu pourras récupérer éventuellement ta bague.
C'est ça. Ouais.
Bah voilà, c'est une forme de ta chérie t'en veut pas?
Non, pas du tout.
Elle sait où elle est au moins la bague.
Oui.
Parce que quelquefois.
Non, elle m'en veut pas. On n'a pas fait l'amour pendant un mois.
T'imagines?
Ah, ouais. Alors on précise aussi parce que les auditeurs ne vont pas comprendre. Mikey, c'est le frère de Stan.
Oui,
voilà,
oui,
pour info.
Le frère
jumeau. Alors, bon, après, il y a un air de ressemblance, les gars, si je peux me permettre.
Ouais,
il y a un petit air de ressemblance, quand même. Mais c'est pas jumeau.
Pas tant que ça,
c'est pas jumeau. D'ailleurs, tant mieux pour vous, finalement, parce qu'au moins, vous avez pu avoir.
Il y en a un qui est plus beau que l'autre.
On dira
oui,
pas
c'est
qui.
Mikey.
Il y en a un qui est plus intelligent que l'autre.
Oui, c'est Mikey. Mikey.
Il y en a un qui a un plus gros nez que l'autre.
Là, c'est...
C'est Mikey aussi.
C'est Mikey, pas
du tout. Ah non, c'est toi.
Bah non.
Ah bah si, car...
Il n'a pas vu son nez.
Ouais, mais il est pas décor.
Il est frère avec toi.
Non,
son nez.
Ah oui. Mais lui, il mate
le
nez, lui.
Je ouais, je sais pas.
Tu sais, il est fan.
Ça fait pas tout.
Non.
Non, il n'y a pas que le nez dans la vie. Voilà, en tous les cas, ce soir... Cette émission va se passer en deux temps.
Oula, oui, sérieux.
Voilà.
Aïe, aïe, aïe.
On va intervenir en fin d'émission sur la chirurgie esthétique puisque nous aurons un médecin, un chirurgien qui viendra sur la libre antenne. Pas n'importe lequel. Et Stan, il va nous le présenter.
C'est docteur Louafi Adèle.
Voilà, Adèle Louafi qui sera avec nous pour nous parler de chirurgie esthétique.
Et notamment président des syndicats
des chirurgiens esthétiques à Paris.
Réparateurs.
Donc il y aura deux, il y aura la chirurgie pour améliorer son physique et il y aura la chirurgie réparatrice quand on a des soucis esthétiques qu'on souhaite
qu'on souhaite dissimuler.
Est-ce que tu voudrais refaire ton nez, par exemple?
Bah, écoute, je vais lui demander combien ça coûte.
Voilà. On va faire un devis.
Et ça va me faire très cher. J'espère que ma mutuelle me remboursera.
Ouais. A priori, non.
Alors, ça dépend. Ouais.
Ça dépend. Ouais. Mais ça pour dépend, un nez, dépasse. De toute façon, mon nez, je vois pas pourquoi j'y toucherais pour le moment. Mais bon, je vais me renseigner. Sait-on jamais. S'il me fait un prix, Adèle Loafi.
Voilà. Oui, il fait toujours des prix.
Il fait toujours des prix, très bien.
Non,
enfin, on en sait rien, on verra. Et puis aussi, première partie de l'émission avec Colonel, qui est là ce soir. Et Colonel, oui. On va faire un panorama des conflits en 2023. Voilà,
un petit panorama des conflits en 2023, en essayant de cibler ce qui est, je dirais, intéressant pour nos auditeurs, parce qu'il y a tellement de choses à dire que, voilà, on fait un petit ciblage, quoi.
Un petit ciblage, et puis bah vous le savez, un colonel, il est chez nous, hein, seulement chez nous, il n'est pas sur d'autres chaînes comme LCP,
LCI,
iTélé, CNews, tralali, tralala, c'est vraiment des exclus, parce que on n'est pas sûr qu'il pourrait finalement dire ce qu'il dit sur d'autres antennes.
Je ne pense pas.
C'est même pas sûr, donc on a la chance d'avoir Colonel, voilà. Qui va, j'espère, vous apprendre des choses ce soir. Et puis, on commencera cette émission par des bonnes nouvelles, parce qu'il y a un journal de bonnes nouvelles. On en a marre d'avoir souvent des mauvaises nouvelles. Ça fait quelques années que c'est assez compliqué, donc on essaye quand même dans l'actualité de trouver des bonnes nouvelles. Ça sera le cas dans quelques instants. Restez avec nous, on revient juste après un son pour le journal des bonnes nouvelles. On arrive.
Dynamique Radio, c'est la radio pour tous.
Dynamique Radio, c'est la radio pour tous. On est en direct dans la libre antenne ce soir, ouais. 20h, 22h. On est là avec vous jusqu'à 22h. Voilà. Oui. On a bravé le froid, bravé les embouteillages.
Exactement.
Les voitures.
L'enfer.
On a
le froid.
Eh oui.
L'enfer.
Eh oui, c'est le froid.
Si, si,
ça y est, ça s'est rafraîchi sur Paris. Voilà, bah ça sort. Et puis bientôt Noël, hein. C'est ça, on a notre repas de Noël là, ce vendredi.
Les dindes sont sorties, mais il manque plus que les marrons.
Oui, oui, les dindes sont sorties. Repas de Noël de l'équipe et de la radio d'ailleurs ce vendredi.
Demain.
Voilà.
Merci d'ailleurs pour l'invitation. Mais merci, c'est sympa.
Est-ce que quelqu'un se rend compte que c'est déjà Noël la semaine prochaine?
Et ouais, mais ça
moi,
va.
Je me rends pas compte.
Mais, mais t'as raison. Ouais, j'ai même pas.
Moi, j'ai même pas l'idée que c'est la semaine prochaine de réveillon.
Mais tu sais quoi? J'ai
de moins en moins. Je me mets ça en tête.
J'ai fait aucun cadeau.
Pareil.
Ouais. Je suis dans le... Ah, c'est pour ça que tu viens à Paris. Tu vas faire des cadeaux de ouf. J'ai fait aucun cadeau.
Pareil.
J'ai pas réservé les bûches de Noël et machin.
Ouais,
j'ai même pas préparé le repas.
C'est ta femme qui fait ça. Ah,
tu qui fait quoi? Elle fait pas les bûches de Noël.
Ah, j'ai entendu dire que c'était ta femme qui
fait manger. C'est facile.
Non, mais pas pour Noël.
Ah non.
Fais le bolam de
Noël. C'est pas ta femme qui fait manger pour Noël.
C'est 20 minutes pour le faire.
C'est quoi?
20 minutes.
Ouais, si tu t'embêtes à faire la bûche. Mais non,
Ah non, alors tu te réjouis de l'affaire.
Ouais, tu te réjouis de l'affaire, c'est ça.
Oui, pour faire la bûche de Cédric Grolet.
Oui,
bûche en bonhomme de neige.
Ouais, c'est il y a positive. Il y a plein de trucs, mais en tout cas, il a raison. Je sais pas si autour de la table vous. Alors déjà, on peut vite faire savoir vous allez passer Noël, donc vous les gars.
Non, pas ensemble.
Non, c'est pas ensemble, mais ça va être en Bretagne.
Non, mais en fait, si le 24 c'est dans ma belle famille.
Dans ta belle famille.
On est nombreux, on est 24 ou 25 si je raconte.
24 ou 25.
Ouais.
Ok.
Ah oui.
Et, parce qu'on fait un an sur deux et.
Et 25 avec ta famille,
ouais,
avec lui.
Avec les parents,
ça, c'est bien.
La famille, tout ça.
Ça c'est bien. T'es en famille. Henri, tu fais le Noël.
Dans la grande famille des amis.
Des amis, la grande famille, comme d'habitude. Yann.
La grande famille alsacienne.
La grande famille alsacienne.
Donc, c'est un gros pour Noël, quoi.
T'as intérêt à nous rapporter des bonnes choses de ton marché.
Ah, là, oui,
sinon,
c'est prévu, c'est prévu.
Ah,
bah, il est gentil, tu vois.
Moi, c'est pas comme toi, d'ailleurs.
Mais et c'est quoi votre spécialité chez vous, à Noël? C'est la dinde au marron, en Alsace?
Il y a plein de bonnes choses. Parce que déjà, c'est les marchés, c'est l'ambiance de Noël. Qui est assez unique.
Ouais.
Et après, t'as plein de choses.
Des gâteaux trop bons.
Et d'ailleurs, vous savez ce que vous allez manger déjà ou pas?
Ah oui, non, des gâteaux,
comme cadeaux. Là.
Ça, c'est sa maman, Ayane. C'est maman
tu
qui
vois,
me parle.
On a un avantage en Bretagne quand même,
ouais.
Par rapport aux Parisiens, faut le dire, c'est que si on veut des homards...
Oui, il y en a. Tu peux les prendre directement. Ça te coûte pas 100 balles
de
kilo, quoi.
Non, c'est pas donné. Même les langoustines, c'est...
Mais le homard, il a... Là, on est en tape.
Il est à 50 balles, hein.
Ah mais ici?
Ouais.
Non.
Il est à 80.
Ah non,
non, non, en Bretagne.
Parce que là, il est à 90.
Ah non, pas à Paris.
Oui, oui.
C'est comme les coquilles Saint-Jacques. Attends, les coquilles Saint-Jacques, il y a 15 jours, elles étaient à 4,50€ le kilo. Et il a prévenu, le poissonnier, il a dit, ah non, pour Noël, c'est 8 euros.
Mais moi, ah bah, le cadeau.
Moi, j'ai une idée, pourquoi vous n'êtes pas tous fêter Noël en Bretagne?
Ah non, mais moi, ça va, j'ai une famille, hein. Ça va bien.
Bah, vous suivez une famille, quoi.
Bah oui, mais. Bah non, mais tu me dis, non, moi, Noël sans famille, généralement. 31 c'est les amis mais Noël sans famille.
J'ai pas d'amis.
Moi je travaille
pas 31.
Mais si.
Tu bosses le 31.
Moi je déteste le 31.
Mais tu travailles.
Je hais le 31. Je travaille.
Ouais.
Oh, ça fait depuis que je travaille dans mon entreprise, ouais, ça fait quasi
Ah ouais, comme ça toi
en marque tous les ans quoi. Ouais.
OK, c'est tout, mais c'est double
pour
paye.
Pour le plus grand plaisir de
ça. Ah, je suis payé double hein.
Ah ouais, bah voilà.
Oui,
pour le plus grand plaisir de sa femme.
Oui, bah sa femme.
Et c'est l'inconvénient et l'avantage du médico-social, c'est que ben t'es obligé de travailler le week-end pour toucher ta prime et tout ça.
Ouais.
Mais
une belle prime de Noël t'attend alors.
Oui, c'est triplé.
Oui, oui.
Ouais.
T'aurais pu nous faire un petit, nous ramener un petit pizza quand même.
Un quoi?
Une pizza.
Non mais attends, tu nous payes le repas demain, j'espère. Parce que tu veux des cadeaux de tout le monde. Mais est-ce que demain tu nous invites au repas de Noël? Allez, là il y a plus personne là.
Non,
il y a
déjà.
Là.
T'as vu qu'on a bégaye.
Moi, mais le regard est fui.
J'ai trouvé des sponsors quand même.
Ouais.
Mais grâce à qui?
Au lieu de payer 30 balles, tu payes 20.
Grâce à.
Ah ouais, mais bon. Grâce à Henri.
Ouais.
Voilà.
Alias Colonel ce soir.
Voilà.
Très bien.
Et on aura des patates à volonté, du fromage à volonté.
Eh oui, puis on emmènera de la musique.
Ça va être
aussi.
Délicieux.
Trop
et quoi,
bien.
C'est fromage et patates à volonté.
Ouais.
Trop bien.
Ouais, alors à volonté, dans la limite du raisonnable quand même.
Ah hein. Oh, bah à volonté, c'est à volonté.
Ça dépend ce qu'on en fait. Hein.
À volonté, c'est à volonté.
On est d'accord.
On va appeler le restaurateur ce soir, on va lui dire. Alors demain, c'est prêt.
Prépare-toi.
Est-ce que vous avez prévu au minimum 200 grammes de fromage par personne, mec? Parce que sinon, on va être un petit peu short.
Et 50 kilos de patates. Allez, on passe au journal des bonnes nouvelles. Tout de suite, maintenant, sur Dynamique Radio.
Dynamique Radio.
Et c'est parti avec le journal des bonnes nouvelles. Mikey, est-ce qu'on a une bonne nouvelle de ton côté?
Oui, j'ai un petit peu fouillé. Alors, pour l'année prochaine, à partir du 1er janvier 2024, ce sera les augmentations des prestations sociales. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Oui. Mais un petit peu comme tous les ans, vous me direz. Déjà, il y a le SMIC hein, qui augmente, il sera 1400 euros net.
D'accord.
Donc, on
il était à combien là?
Il était à 1370, un truc comme ça.
Donc on gagne 30 euros.
Ouais, à peu près.
Ok.
Il y a ça, et puis c'est les prestations des allocations adultes
handicapés, AAH.
Handicapés, ouais. Ouais,
qui augmente aussi.
Ouais, qui augmente le RSA.
Très bien, le RSA.
Ouais.
Super. Bah,
et par contre, alors, pour les retraités, ça va être une super bonne année parce que les retraites augmentent de 5%.
D'accord, ok.
Oui, bon, mais ce qu'il a oublié de dire, c'est que tout va augmenter derrière.
Ouais,
mais
c'est une bonne nouvelle. C'est le journal
et
des bonnes
derrière,
nouvelles.
Et que derrière, s'ils augmentent
derrière. Non, mais c'est une bonne nouvelle.
S'ils augmentent les retraites, s'ils augmentent derrière.
Oui, mais on parle de bonnes nouvelles.
D'accord.
Donc, que des bonnes nouvelles. Donc, le RSA, il augmente de combien?
Je sais pas.
Tu sais pas. On regardera ça.
En pourcentage, je sais pas.
Voilà, parce que si ça.
Ouais, c'est
pas
nouvelle.
Mal, c'est une bonne nouvelle. C'est des bonnes nouvelles. Nouvelle.
Donc,
tout augmente, mais les prestations aussi.
Oui.
On enchaîne avec Isa et
donc
sa bonne nouvelle.
Alors, ma bonne nouvelle du jour, on a tendance de temps en temps à critiquer notre chère maire de Paris bien-aimée.
Oui, Madame Hidalgo.
Voilà, alors bon,
c'est facile de taper dessus.
Pour ne pas la citer, voilà. Mais il faut rendre à César ce qui est à César, il faut être juste. Et quand elle fait les choses bien, il faut le dire aussi. Et donc, en l'occurrence, c'est le cas, puisque, alléluia, on a des fêtes de fin d'année festives.
Festives.
Donc, si vous êtes à Paris le 31 décembre, je vous conseille d'aller à partir de 19h sur les Champs-Élysées. Il va y avoir des DJ sets 100% féminins.
Ah oui, DJ set 100% féminin.
Il va y avoir la présence de Slimane qui va interpréter sa chanson Mon Amour qui représentera la France à Eurovision.
C'est ça.
Rien que pour ça, je vais y aller.
J'y suis.
Il va y avoir, c'est pas fini.
Non.
C'est pas fini.
Ah, tu veux.
La plus grande Ola jamais réalisée.
Waouh.
Ah ouais, c'est pour le Guinness Book, quoi.
Il va y avoir un karaoké géant.
Ouais.
Il va y avoir des performances aériennes. Il va y avoir un vidéo mapping qui va être projeté sur l'Arc de Triomphe. Et pour finir le tout, un grand feu d'artifice.
Eh ben, c'est génial le 31 à Paris.
Franchement,
bravo Hidalgo.
Il y a quand même énormément de trucs. Le tout est co-animé
avec
Laurie Tillman. Ça va être vraiment la méga grande fiesta qui va lancer l'année olympique.
Très bien.
Le tout grâce à
une bonne nouvelle.
C'est une bonne nouvelle.
C'est une bonne nouvelle.
Est-ce qu'on a une bonne nouvelle?
Merci Madame Hidalgo.
Avec son argent.
Non, c'est nous qui.
Avec notre argent. Merci Madame Hidalgo.
Avec l'argent des Parisiens.
Pour lui, c'est une bonne nouvelle.
Parce que
petite.
T'es pas Parisien.
Bonne nouvelle. Anecdote. Oui, une bonne nouvelle. Enfin, il y en a deux même. Je viens de recevoir un message d'une auditrice qui nous dit que les coquilles Saint-Jacques, le kilo est à 3,50 euros à Roscoff.
Ah ouais.
Oui, mais avec la coquille.
Ça, c'est une bonne nouvelle.
Non, mais Fred, avec la coquille, tout quoi. C'est normal.
Tout le monde peut être payé par 2 ou 3 le prix. Hein,
donc, donc sur 10 kilos, tu retiens.
Alors, par contre, moi, j'ai une bonne nouvelle parce que j'ai su ça cet après-midi.
C'était une bonne nouvelle. Les coquilles Saint-Jacques, t'aurais pu t'arrêter là.
Maintenant, parce que ça nous concerne pas, il va pas nous ramener des coquilles de Roscoff.
On peut les surgeler, on peut les congeler.
Oui, t'as raison, je vais les ramener dans le train, je vais me faire chier de
les
coquilles.
Ça pue après.
Je veux bien que tu me ramènes 10 kilos de coquilles dans
le train. Tu vas en Bretagne, tu vas aller chercher toi-même. Non, une bonne nouvelle, mais qui sera officialisée en janvier. Nous avons reçu ce personnage, je dirais, à la radio, qui va participer à la cérémonie de la flamme olympique.
Tu sais,
le relais de la flamme olympique. Donc, il est nommé. Pour allumer la...
Mais tu parles de qui?
La lampe torche, on va dire.
Alors, c'est qui?
De qui parles-tu?
Je vous le dirai hors antenne, mais on l'a reçu.
Non, c'est pas officiel encore. Soit t'en parles pas.
Non, parce que c'est pas officiel.
C'est officiel.
C'est pour allécher.
Il est sur la liste des candidats.
Ah, pour allumer la...
Voilà.
Et alors, est-ce que tu peux nous donner un indice?
Oui, travailler, balayer, astiquer.
Ah.
Voilà.
Alors
bah oui. Bah elle est liée à Sticker.
Non, je l'ai pas dit.
Ah, c'est une artiste.
C'est Princesse Erika.
Un artiste.
Bah si je vous dis bah liée à Sticker.
Bah oui, mais c'est Princesse Erika.
Francky Vincent.
Mais oui.
Bah non.
Bah si, c'est Princesse Erika.
C'est un indice. C'est pas un chanteur que je vous demande de me donner, bande de patates.
Ah oui, j'ai trouvé. C'est pas un chanteur.
C'est
quelqu'un qui ah oui, et puis d'ailleurs il le mériterait. C'est quelqu'un qui fait énormément pour le nettoyage des rues.
Mais l'hôtel est bon, on comprend rien.
Voilà.
Okay, ah,
le TikToker le plus célèbre.
Ah, ah, je l'ai aussi.
Okay. Voilà.
Oh, les blondes, elles disent non, elles ont du temps, hein.
Mais ouais. C'est une bonne nouvelle pour lui, ça.
Mais tu...
Non, mais c'est génial parce qu'il le mérite, en plus.
Ouais, puis la flamme, il va la mettre sur son...
Ça y est.
Non, dans son chariot.
Excusez-moi, dans mais il y a une canette là, alors la flamme, elle va attendre.
Il serait capable, hein.
Bah, il serait capable de... Très bien, ouais. Yann, une bonne nouvelle.
Alors, une bonne nouvelle dans cette année économiquement très compliquée, on a quand même la France qui s'en sort bien parce qu'elle est en pleine expansion industrielle. Et en plus, c'est pas que des usines, on va dire, très polluantes qui se construisent. On est les champions du monde dans la technologie verte.
Eh oui.
Voilà. Donc très on a bien. Fait...
Champion du monde de la technologie verte.
Exactement. Beaucoup d'ouvertures d'usines, donc sur tout ce qui est panneaux solaires et batterie éco-responsable.
Ah, oh là là.
On est premier sur le... C'est bien parce que d'après ce qu'on a pu entendre de la COP23, les énergies fossiles ont des lendemains difficiles.
Oui, bah, il paraît que c'est les chats et les chiens qui polluent aussi la terre.
Hein. Elle est vache.
COP23, on n'en est pas à la COP28 déjà, non?
Ah si, c'est la 27.
À mon avis, t'as t'as 5 ans de retard, mec. Hein. Faudrait peut-être se réveiller. Allez,
c'est la COP28, tu vois. Dès qu'on parle écologie, voilà. Oui. Énergie fossile, ça c'est terminé, on en parlera peut-être tout à l'heure. Colonel, une bonne nouvelle?
Oui, il y a très bonne
nouvelle. C'est pas évident.
Il y a très bonne nouvelle, c'est que aujourd'hui et tous les jours qui vont venir, on aura bientôt moins de mainstream et beaucoup plus de vérité dans les informations.
Ah, alors c'est un souhait ou...
Non, c'est une réalité. J'ai un constat et je vous invite à écouter, puisque effectivement l'émission de NCP sur De Gaulle, l'homme à abattre. De Gaulle, l'homme à abattre, c'est une émission extraordinaire, historique, avec une bonne raison, c'est qu'il y avait des archives déclassifiées.
Oui.
Et à partir des archives déclassifiées, on a un certain nombre de choses que l'on ne pouvait pas savoir, puisque des secrets d'État, etc.
Qui ont été levés, ouais.
Et là, effectivement, il y a eu le lundi 11 dernier décembre à 20h30 une première émission. Elle est reproduite le 17 décembre à 18h. Je vous invite vraiment à l'écouter. Et le 18 décembre à 0h15. Et le replay, bien sûr. Et cette émission révèle des secrets d'État. Et ça, c'est vraiment très important parce que la vérité nous rendra libres. Et
la vérité nous rendra libres.
C'est beau ça.
En particulier, apprendre que les services secrets américains ont tout fait pour torpiller le général de Gaulle et avec la preuve à la
Oui.
Eh bien, je pense que ça va intéresser beaucoup de Français.
Très bien. Ouais. Merci pour
et
cette bonne nouvelle.
Merci. C'est le fils qui a témoigné ou le petit-fils qui a témoigné il n'y a pas longtemps là,
Le petit-fils.
Je ne sais plus si c'est le petit-fils. Les deux, hein. Ouais. Voilà, d'accord.
Pierre de Gaulle en particulier.
Oui, c'est vrai, tu as raison. J'ai regardé l'autre jour aussi sur la chaîne parlementaire.
Et l'historien s'appelle Éric Branca. C'est un historien, un journaliste, ancien directeur de Valeurs Actuelles et auteur de l'ouvrage L'ami américain. Voilà. Et le général de Gaulle disait « Un pays n'a pas d'amis ».
Un pays n'a pas d'amis ?
Un pays n'a pas d'amis.
D'accord. Et qu'est-ce qu'il entend par là ?
Ah ben justement, pose-toi la question. Est-ce que tu penses que la France n'a que des amis ?
Non, même plus.
Non, on a beaucoup d'ennemis, je dirais, ces temps-ci.
Et quels sont nos ennemis ?
Oh là, ils sont nombreux. Ils sont nombreux.
Question, ouais.
Non, c'est intéressant de se poser des questions, justement. En tant que, je dirais, simple citoyen, voilà, qu'est-ce que l'on peut dire de la France ? Est-ce qu'on a des amis, des ennemis ? Et voilà. Voilà, quels sont nos amis, quels sont nos ennemis ?
Il avait une bonne nouvelle aussi, je crois, avant qu'on entame...
Oui, parce que là, on part sur un...
Ça dévie, là.
Bonne nouvelle, en ce qui me concerne, bah oui, c'est la victoire du PSG, la qualification du Paris Saint-Germain pour les huitièmes.
Super,
on s'en fout pas, moi, je suis désolé. C'est très bon pour l'indice UEFA, pour les spécialistes, c'est très très bon.
Est-ce que ça va nous changer pour notre portefeuille à nous?
C'est pas une question de portefeuille, moi je te parle.
Mais ils ont eu chaud parce qu'ils étaient cinquième au classement à un moment.
À un moment donné, ils étaient éliminés.
Ouais.
Voilà, donc là, ils passent.
Et ils sont remontés d'un coup.
Et pour l'ensemble des clubs français, c'est bien parce qu'il y a un indice UEFA. Donc quand le PSG se qualifie, ça profite à tous les autres
c'est
clubs.
Normal, ouais.
Et dans le PSG, il y a une petite, il y a quelqu'un qui a 17 ans qui s'appelle Zahir Emery, qui a marqué hier ce but-là à 17 ans seulement, pour vous dire.
C'était le but de la qualification.
Et en plus, c'était le but de la qualification.
Tu sais ce que c'est, un GPS détraqué?
Non.
De quoi?
Un GPS détraqué, c'est quoi?
On dévie totalement.
Ouais,
c'est quoi un GPS détraqué?
Ouais, mais je sais pas.
Bah, PSG.
PSG. Ouais. Voilà. Très bien.
Merci.
Ok, ça marche.
Oh là,
c'est,
attends,
oui,
c'est,
ah, ouais, là, c'était, est... c'était la, la blague. Ah,
c'est les grosses têtes, c'est pas?
Bah oui, c'est
les,
une bonne nouvelle.
C'est les grosses têtes, tout de suite, Stan de Roscoff.
Mais bonsoir,
bonsoir. GPS détraqué, bah, c'est le PSG. Oui, tout à fait. Belle.
Je salue ton ami joueur. On a un pote en commun qui connaît. D'ailleurs, je lui ai demandé s'il pourra venir un jour ici à la radio. On a un pote en commun, Zaza, qui connaît très bien un des joueurs de du PSG.
Eh ben, très bien. Eh ben, écoute. Ouais. Alors, c'est qui?
Marquinhos.
Ah, Marquinhos.
Et, oui, parce qu'il fait des tours de magie pour ses enfants, figure-toi.
Ah, oui, ok.
Et il le connaît très, très bien. Ah. Ils sont très potes. Et
ben,
j'aimerais
tu
bien.
Tu sais quoi?
Ouais, je vais négocier.
Tu lui demandes d'aller chez Marquinhos, et toi, tu fais les blagues, lui, il fait la magie.
Non. Pour le faire venir. Et il va se faire dégager par la peau d'air.
Allez, on revient dans quelques instants.
Qu'est-ce
on va faire un panorama 2023 de tous les conflits existants avec Colonel. Voilà, un rapide panorama sur tout ce qui a pu se passer durant cette année.
En
peut-être
gros,
qu'on essaiera de savoir ce qui se passera en 2024.
On est dans la merde.
Colonel n'est pas venu avec sa boule de cristal, mais quand même, malgré tout, il y aura un éclairage sur les conflits. On va parler géopolitique. On revient tout de suite avec un son. C'est Flo Malais, Partir en guerre.
Oui.
Ouais. Et vous savez
Flo
quoi
Malais.
Pour
Salut
la
Flo.
Petite histoire.
Oui.
Le
Flo.
Lendemain, ouais. J'étais en train de faire mes courses.
Ouais. Tu l'as
vous
vu
savez qui je croise?
Flo Malais.
Flo Malais.
J'étais conne.
Kamikaze, je change d'état, je peux pas me mettre en danger. Ton sourire aiguisé.
Dynamique Radio, c'est la radio pour toutes et tous. D'ailleurs,
oh,
je tiens à le préciser aussi parce que voilà. Hein.
C'est bien de faire de
la parité.
Il
y a des auditrices.
Je
et
t'en
là,
remercie.
Bah de rien.
Non, on parle des auditrices, on parle pas des animatrices.
Bah même bah... aussi.
je suis ravi qu'ils mettent en avant la parité.
La femme prendra le pouvoir.
Voilà. Et d'ailleurs, on salue toutes nos auditrices qui nous écoutent, hein, parce que il y en a quelques-unes
oui,
aussi qui nous écoutent chaque jeudi. Donc ça nous fait plaisir. Bonsoir, Yann Fricker.
Sur Instagram.
Comédien. Troisième du nom.
Voilà, jeune comédien.
Futur Gérard. Non.
Gérard Junior.
Futur grande star. Future grande star du cinéma.
Merci Zaza.
Il y a
mais
un côté
pas,
Alain Delon.
Pourquoi pas.
Moi, je vous le dis, sérieusement, chers auditeurs.
Ah ouais,
il y a un côté Alain Delon.
Alain Delon jeune, il était brun.
Oui, mais en dehors de ça. Il y a, il y a pas, et encore brun, il y avait, oui.
Ah bah, il était brun, oui, si, il était brun châtain. Il avait les mêmes cheveux que toi.
Mais il a un côté Alain Delon, je sais pas. Voilà. Plutôt que Gérard Jugnot, tu vois.
Vu les cheveux blonds.
Ah oui, non, pas Gérard Jugnot.
Ouais, on est d'accord, il porte pas encore la moustache. Peut-être pour un prochain rôle.
Si, il a un côté de Depardieu, je trouve.
Non. Oui, bah parlons de Gérard Depardieu qui est exilé maintenant en Belgique, hein, du coup. Il est retourné en Belgique.
Ça fait un moment qu'il est en Belgique.
Non, mais les Français.
Il navigue entre la Chine, la Belgique et la Russie.
À la France, il est là. Je crois
qu'à chaque... s'expliquer, ça peut
oui,
s'expliquer.
À chaque aéroport, c'est compliqué. Ah, colonel, c'est à vous. Colonel, ce soir, on va faire un panorama de tout ce qui a pu, exister, tout conflit qui a pu être mené. On a pensé à tous ces conflits-là, parce qu'il y en a eu, hein, cette année.
Il y a eu
même
beaucoup de conflits. Ouais, et la première question, c'est, pour chacun de nous, voilà, qu'est-ce qui a été marquant? Qu'est-ce que vous avez pu constater dans l'année 2023 comme problème majeur, comme événement majeur?
Eh ben, c'est la question. Mikey, quel problème majeur, quel gros événement?
Bah, gros événement, c'est guerre Russe-Ukraine et puis contre le Damas et puis
la guerre en Israël.
Damas et tout voilà. Ça, la guerre en Israël quoi. Voilà. Okay. C'est les deux grosses guerres en fait. Ouais.
Isa.
7 octobre 2023, massacre des Israéliens.
On enchaîne. Qu'est-ce qui t'a marqué? Ça peut être autre chose. Hein.
Ça peut être autre chose. Les événements.
Ouais, je sais pas.
Il sait pas.
Parce que en fait, je vais te dire une chose, vu qu'il y a tellement de mauvaises nouvelles sur les
ondes aussi.
Que je regarde pas la télé, donc c'est vrai que
non, mais là c'est pas une question de télé.
Mais en bonne nouvelle, peut-être
non, mais c'est pas
les
bonnes nouvelles. Non, c'était avant. C'était la rubrique d'avant.
Oh là 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 là, le mec est bourré.
Stanislas, si vous nous écoutez.
Le mec est fatigué aujourd'hui.
Non, j'ai pas d'exemple pour l'instant.
Mais rien t'a marqué, aucun conflit, aucune image.
C'est pas que ça m'a marqué, c'est que malheureusement, voilà.
Ok, très bien, on enchaîne.
Catastrophe.
Moi, je dirais le climat d'insécurité en France.
Ah oui.
Aussi. C'est tendu.
Quelques éléments de violence, quoi.
Oui, voilà.
Et puis moi, histoire de pas faire comme les autres, quand même, parce que ça serait trop facile, même si franchement, ça m'a marqué ce qui s'est passé en Israël. Je vais dire, allez, l'Azerbaïdjan.
Ah oui, bien. Ah
bah je suis allé chercher.
Ouais,
t'as triché surtout.
C'est super important. C'est super important. Donc, je pense que effectivement, l'Azerbaïdjan, l'Ukraine, Israël, on peut en rajouter parce que malheureusement, il y en a eu d'autres et il y en a encore d'autres qui se battent aujourd'hui, que ça soit en Afrique, en Afrique, en Amérique du Sud, en particulier là, actuellement le Venezuela est tout près de se battre avec le Suriname. Bon, donc il y a un certain nombre de tensions. Et si on se met un petit peu, je dirais, en avion, en hélicoptère au-dessus de tout ça. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Qui tire les ficelles? On peut se poser la question. Et est-ce qu'on a des éléments d'appréciation pour dire, aujourd'hui, qui tire les ficelles et à qui ça rapporte? À qui rapporte le crime? Alors, premier constat que tout le monde a fait, c'est, disons que, tout à l'heure, rien d'en parler, au niveau de la France, on a une économie qui va être presque positive cette année. Bon. En Allemagne, c'est pas du tout le cas. En Allemagne, il y a une faillite de l'économie allemande suite à la rupture du gaz avec la Russie, et donc des conséquences graves sur toute l'économie allemande. Alors la France a un petit peu moins parce qu'on a le nucléaire, mais c'est quand même des conséquences sur la France également. Donc ça, déjà, on peut voir qu'au niveau de l'Europe, il y a des pays qui sont différents, qui ont des réactions différentes par rapport à la crise en Ukraine. Et il y a des pays aujourd'hui aussi, en 2023, on s'est aperçu qu'il y a des pays en Europe, on prend la Hongrie, on prend même la Tchéquie, qui sont très réticents pour poursuivre, je dirais, le conflit en Ukraine. Ça, c'est une nouveauté. Je ne sais pas si certains l'ont observé, mais c'est vraiment important. Et puis, surtout, le président Zelensky ne fait plus l'unanimité, et on a vu en 2023 qu'avec son chef d'état-major, eh bien, il ne s'entendait pas franchement.
Quand tu dis ne fait plus l'unanimité, c'est ne fait plus l'unanimité par rapport à qui? Tu veux dire en interne dans son pays?
En interne par rapport à son... Effectivement. Et puis une des caractéristiques qui a été observée, comment le président Zelensky dirige, je dirais, le conflit? C'est la question qu'on peut se poser. Est-ce que Zelensky dirige de la même manière que Poutine ou pas? Et c'est vrai que c'est pas la même manière de commander. Est-ce que reproche actuellement le chef d'état-major ukrainien? C'est que, effectivement, le président Zelensky a fait sa propre politique, a donné des ordres aux militaires, alors que les militaires avaient donné un avis que ce n'était absolument pas possible. Il y a eu des simulations qui ont été faites avec les Américains, donc en Allemagne, pour valider quelle était la manière de faire des Ukrainiens pour avoir un succès sur le front avec la Russie.
D'ailleurs, si je peux me permettre, oui. Colonel, on a le sentiment quand même que Zelensky est un peu lâché aussi par les puissances occidentales.
Et pas que.
Et pas que.
Et pas que. Et pas que. Voilà.
Et pas que.
Mais c'est pas non plus innocent, c'est-à-dire que il a eu, je dirais, une action trop directe sur la partie militaire, alors que ce n'est pas quelqu'un de compétent dans le domaine militaire.
Bah en même temps, oui, il était partout et il était aussi bien sur, on le voyait aussi bien sur les champs de bataille que dans des conférences, qu'en train d'être sur le champ de la com. Il était aussi bien sur le champ militaire que sur le champ de la communication, aussi bien au niveau de la presse que des pays étrangers, etc. Il a énormément voyagé pour essayer aussi de convaincre.
Et trouver des financements.
Voilà, trouver des financements, trouver des armes, trouver.
Alors sur cet aspect des choses,
il était un petit peu obligé entre guillemets d'être un peu partout, quoi.
Non, mais c'est tout à fait juste ce que tu dis, c'est que il a effectivement été mis en place avec une compétence en matière de communicant. Il avait fait des émissions télé, il avait fait différentes choses, donc il avait un savoir-faire dans ce domaine. Bon, ensuite confronté à la réalité des morts et des familles qui sont en deuil en Ukraine, il a malheureusement pas tout à fait mesuré la manière de commander des troupes.
Est-ce qu'on sait actuellement le nombre de victimes des deux côtés?
Alors, actuellement, je dirais, on n'a pas de fait, enfin, d'éléments très précis. Il y a des observateurs qui ont regardé par rapport aux tombes, par rapport aux, etc. Alors,
c'est compliqué.
Ouais, c'est compliqué.
Ce que l'on peut dire, c'est qu'on prend la bataille de Bakhmout. Là, le président Zelensky a forcé, effectivement, cette bataille qui, a priori, ne servait à rien. Et ce qui a été déclaré, à la fois côté russe comme côté, surtout côté russe, c'est que cette bataille, c'était un hachoir pour les troupes ukrainiennes. Et ce qui est dommage, entre guillemets, c'est que ce sont les troupes ukrainiennes d'élite qui sont venues se faire massacrer dans ce piège. Et ça, le chef d'état-major avait dit, il fallait pas faire ça. Et
après, Zelensky Bakhmout,
a dit, moi je veux que vous fassiez ça.
Est-ce qu'on a des chiffres à peu près?
Ça terriblement nuit à l'image du président.
Est-ce qu'on a des chiffres? Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui il y a eu 100 000 victimes d'un côté?
Est-ce que les chiffres sont pas erronés non plus?
Oui, voilà, on est pas sûr
que c'est caché.
C'est difficile de donner des chiffres.
Aujourd'hui, je suis prudent. Je sais que.
À la louche.
Voilà, à la louche, d'après les éléments dont je dispose, il y a un facteur au moins de 3 ou de 4 entre les morts russes et les morts ukrainiens.
Donc il y a 4 fois plus
de morts ukrainiens que de morts russes.
D'accord.
Et en même temps, il y avait 4 fois plus de combattants russes que de combattants ukrainiens.
Oui.
Okay. Ouais, donc c'est mathématique. La proportionnalité, ouais, donc,
alors, d'un autre côté, il faut voir aussi que au niveau des armes, les armes qui ont été fournies, c'était des armes d'abord qui étaient des armes d'origine soviétique qui avaient été données dans les anciens pays du pacte de Varsovie, qui étaient en Hongrie, en Tchéquie, etc. Puis ensuite, quand il n'y en avait plus, c'est des armes effectivement qui étaient occidentales. Et là, l'utilisation par les Ukrainiens de ces armes, ils n'étaient pas habitués, ils ne savaient pas très bien faire, ils ont eu du mal à se mettre à ce métier-là, faut le dire. Et donc, ça a été pénalisant pour les troupes ukrainiennes.
Non, puis tout n'a pas été livré non plus. Hein. Tout ce qui avait été promis n'a pas été livré, loin de là.
Et tout ce qui a été livré n'a pas été utilisé non plus. On a retrouvé, et ça c'est vraiment des choses importantes à dire, et on a retrouvé des armes qui avaient été fournies par la France, fournies par les Américains. On a retrouvé au Nigeria, en Angola, en Libye, etc.
Ouais.
Donc aujourd'hui, on sait très bien que les Ukrainiens étaient d'excellents marchands d'armes et qu'ils ont toujours fait du trafic d'armes, j'en suis moi le témoin, je le sais, et ils ont continué à faire du trafic d'armes avec les armes qu'on leur fournissait, au point qu'ils ont vendu les armes, en particulier donc les armes françaises, aux Russes. Et donc les Russes, pendant le conflit, et donc les Russes se sont intéressés bien sûr à ces armes, regardaient comment ils pouvaient les neutraliser, et ça a effectivement permis que les militaires russes fassent des contre-mesures contre ça. Alors moi je veux revenir sur un ou deux petits exemples de cette année qui est quand même important. C'est l'histoire, je dirais, de Prigogine et du groupe Wagner.
Ah oui.
Et je pense que là, il s'est passé quelque chose d'important.
Tout à fait.
Parce qu'effectivement, la victoire de Bakhmout est une vraie victoire. Et puis ensuite, c'est bizarre, on se dit, l'ami de Poutine, finalement, on n'est plus amis et c'est fini.
Ah, c'est même pire que ça. Je me soulève contre lui et je veux faire un putsch.
Qu'est-ce qui s'est passé?
Mais alors déjà, est-ce qu'il est réellement mort?
Oui, c'est la vraie question aussi. Oui.
Est-ce qu'il vit pas? Parce que il adorait les perruques et les postiches. On tient à le préciser dans sa vie d'avant. Donc Il suffit de mettre une postiche et des moustaches et finalement
toi,
il peut être incognito.
Bah, potentiellement, ça peut être quelqu'un d'autre qui va en sa place aussi. Hein. Oui.
Ouais,
ça peut être
un souci. Ou même personne.
Possible. Hein.
Aujourd'hui, on n'est pas là pour le savoir.
Non, c'est oui. Non.
On va se poser d'autres questions.
C'est des suppositions.
Non, mais ça peut être une question.
Oui, c'est ça.
Ouais.
On va se poser
la question, c'est, je reviens un petit peu en arrière. Vous êtes militaire, vous voulez effectivement, je dirais, franchir le front qui a été mis en place, en particulier par les Russes, sachant que pendant tout le temps d'attente de l'armement de l'Ukraine, les Russes ont eu le temps de renforcer toute la défense de la zone. Et là, vous voulez absolument vaincre ça. Qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que, logiquement, vous allez faire pour pouvoir y arriver?
Alors là,
vous avez 3 heures.
Bon, quand tu es toi en trottinette et que tu as un bouchon devant toi, tu fais quoi?
Bah, tu retournes.
Retourne.
Eh ben voilà.
Faut me parler en trottinette, colonel.
Bah voilà.
Et donc là, quand la trottinette veut franchir, je dirais, les 1000 et quelques kilomètres de front, eh ben tu passes par où?
Par la mer.
Par le pays.
Par la mer éventuellement.
Au sous-sol.
Et surtout, tu veux t'attaquer à, par exemple, la Crimée, parce que la Crimée est isolée sur une presqu'île avec un pont, etc. Et si tu prends le pied sur sa Crimée, si tu récupères la Crimée, c'est déjà pas mal de gagner. Alors, si tu veux, maintenant, en trottinette, effectivement, récupérer la Crimée, il te faut des points d'appui, t'es d'accord?
Tout à fait.
Et tu les prends où?
Les points stratégiques.
T'es ukrainien, tu te dis, je veux absolument prendre la Crimée, qu'est-ce que je vais faire?
Eh bien,
je vais utiliser des complices.
Voilà.
Qui sont de
l'intérieur.
Déjà à l'intérieur.
Tout à fait.
Ah, ok.
Des points, en Russie.
Avec des points stratégiques.
Alors, est-ce que Prigojine, où s'est-il? Il s'est rébellé, soi-disant, effectivement, contre Poutine, enfin contre le gouvernement et contre le ministre de la Défense. Et où s'est-il réfugié? Où s'est-il mis en place?
Bah, du côté de la Biélorussie.
Alors, non, de l'autre côté.
La Crimée.
De l'autre côté, du côté de la Crimée, à Don, je vais retrouver le nom. À la ville de Don, qui est un peu plus d'un million d'habitants.
Ah oui, oui, oui.
Et
oui.
Dans cette ville, il s'est réfugié et il avait l'appui des autorités militaires du coin. Mmh. Donc ça.
Mais
permis,
pas, comment,
ça...
comment il a eu cet appui militaire?
Voilà. Ah, ouais. Donc il était rebelle et il s'appuie sur des militaires qui étaient dans cette ville de 1 million d'habitants. Alors on peut se poser la question.
Bah, sachant que de base, il faisait quand même, c'était quand même le chef d'une milice privée.
Alors, chef d'une milice privée qui se rebelle contre les autorités militaires de la Russie et qui dit, moi, vous ne me payez pas assez, vous ne faites pas assez de choses, donc c'est dégueulasse, et donc puisque c'est comme ça, eh bien, je vais vous emmerder.
Voilà.
Je vais lancer un putsch.
Et là, effectivement, il est accueilli
les bras ouverts
dans cette ville, voilà, par des autorités militaires, on peut dire, presque dissidentes de l'armée.
Ouais.
Ah bah si elles soutiennent Prigojine, elles sont forcément dissidentes.
On est d'accord.
De fait.
C'est intéressant. Bah, oui. C'est intéressant.
Tout de fait.
Donc ça révèle quoi?
Bah qu'il y a des dissidents dans l'armée russe.
Que les Ukrainiens avaient effectivement sans doute mis en place un piège qui consistait effectivement à travers leur service secret, voire le service secret américain, à attaquer la Crimée à partir de cette ville. Étant donné qu'ils avaient des relais sur place et des gens qui étaient, en particulier des militaires sur place, qui n'étaient plus dans l'armée, proche de l'armée russe.
Donc aujourd'hui, pour revenir à ça, quid de ce conflit et quid de... Qu'est-ce qu'il en reste aujourd'hui?
La conclusion, c'est que Poutine, lui, s'est servi de Prigojine, son ami, qui en fait ne l'a jamais trahi, pour faire croire que, effectivement, avec Prigojine, que Prigojine était un rebelle.
Oh là là.
Et ça a révélé
les failles intérieures du système,
exactement.
Notamment les potentiels traîtres.
Exactement.
Et ce qui n'était pas Prigojine,
ça a empêché,
selon toi.
Et ça a donc empêché quoi? Donc la contre-offensive ukrainienne. La contre-offensive ukrainienne, elle a été piégée là.
Et donc le mec se fait... Donc si je suis ton truc, le mec n'a jamais trahi Poutine,
non.
Et donc n'a jamais été un traître, donc il a été buté pour rien, en fait.
Il n'a pas été buté.
Donc
il n'a pas été buté par Poutine.
Par Poutine.
Oui. Ouais, il a été buté par qui, alors?
Bah, on ne sait pas, ça.
C'est un autre sujet.
C'est un autre sujet.
On
ça
pas.
Ça
pourra en parler dans une autre émission.
et quid du conflit ukraino-russe actuellement? Ça
alors,
a l'air figé, hein.
Dans l'état actuel des choses, il est clair que Poutine, faut pas l'oublier, c'est un joueur d'échecs. Bon. Donc, il a, je dirais, l'habitude de jouer de différents
Oui,
de différents pions.
Mais plusieurs coups d'avance.
Dans ce cadre-là, il a énormément ce qu'on voit au niveau de l'année 2023, c'est que Poutine n'est pas resté enfermé chez lui.
Ah bah non.
Poutine a circulé avec tous les pays du monde, avec la Chine, avec l'Inde, avec aussi l'Arabie Saoudite récemment.
Enfin, c'est quand même récent, hein, ces voyages. C'est quand même plus deuxième semestre 2023 que premier semestre 2023.
Oui, mais tout ça n'est pas anodin.
Mais il avait énormément de contacts. Il avait un voyage en Chine d'abord.
Et là, il y a l'Arabie Saoudite.
Alors, ce qui est aussi, en 2023, un événement dont on n'a pas parlé, et ça, je pense que c'est super important de bien prendre conscience du changement et vraiment stratégique au niveau international, c'est l'accord entre l'Iran et...
Ah oui.
Et qui?
L'Arabie Saoudite.
Exactement.
C'est-à-dire le Qatar. Ouais.
Non, c'est donc ça, c'est complètement nouveau.
Bah, c'est surtout,
Alors, quels sont les enjeux?
Est-ce que c'est inquiétant?
Ah, pour moi, c'est pas du tout inquiétant. C'est simplement, je dirais, quelque chose qui va effectivement, est une réaction contre les Américains.
Ouais.
C'est une réaction contre les Américains parce que les Américains, à force, je dirais, d'avoir attaqué l'Afghanistan, à force d'avoir attaqué, je dirais, l'Irak, à force d'avoir attaqué, je dirais, à vouloir attaquer la Syrie, se sont fait beaucoup d'ennemis, parce que quand on a attaqué, effectivement, l'Irak, le président Chirac a dit, moi, j'y vais pas. Parce que j'ai la preuve.
Exact.
J'ai la preuve, aujourd'hui, on peut le dire, avec les photos satellites que la France avait, que ce que disaient les Américains était faux.
C'était faux. Bon. D'ailleurs,
et donc, on s'aperçoit que sur cette affaire, comme sur d'autres, et comme sur l'émission sur le général de Gaulle, les Américains font croire des choses fausses et ensuite payent avec de l'argent un certain nombre de personnes pour jouer le rôle d'une rébellion dans un pays et faire en sorte qu'effectivement il y ait une bagarre. Je rappelle quand même que, avec le témoignage que j'avais déjà donné, qu'en Syrie, le conflit a commencé du côté de Homs, où il y a eu effectivement CNN qui a filmé des cadavres un matin qui étaient sur un carrefour d'une route en plein centre-ville, et c'était des cadavres qui venaient de la morgue de l'hôpital qui avaient été mis là. Il y avait des poches de sang qui avaient été répandues, il y avait des pelleteuses qui avaient fait des trous à droite à gauche pour faire croire
une
mise en scène. Donc aujourd'hui, tous ces éléments étant observés, et puis également d'autres dont on pourra parler en Israël, eh bien un certain nombre de pays se disent, moi je me méfie des Américains.
D'accord.
Et ça, je pense qu'aujourd'hui, il y a en 2023 une révélation, c'est que les Américains, il faut s'en méfier. Et ça, c'était pas officiel. Mm-hmm. Aujourd'hui, ça apparaît officiellement très peu en Europe, mais dans beaucoup de pays, parce que là, on raisonne en tant que Français. Mais quand vous allez vous promener au Brésil, quand vous allez vous promener au Venezuela, quand vous allez vous promener au Mexique, quand vous allez vous promener aux Philippines ailleurs, vous découvrez des gens qui ont une autre vision du monde.
Ah ben, totalement.
C'est sûr, oui.
Oui, mais ça veut pas dire que c'est eux qui détiennent la vérité non plus.
Oui.
Ah ben, quand il y a d'accord. des faits...
Ah, aussi.
Mais s'il y a des faits, voilà.
On voit bien quand même qu'il y a des alliances qui sont un peu surprenantes. On voit bien que il y a des pays qui sont déséquilibrés et que il y a 50 pays depuis 1945 qui ont été en conflit sur l'initiative américaine. Ça, ce sont des faits. 50 pays. Et donc, aujourd'hui, on peut se poser la question, effectivement, comment gérer ça? Et donc, le dernier élément, c'était, que je vais donner, qui montre quand même que c'est pas facile. Le week-end dernier, il y avait la COP23, et en même temps, à Belfort, il y avait, normalement, une fête qui avait été organisée. Est-ce que vous savez pourquoi?
Non.
En 2000?
Non.
La
COP28.
Le dernier week-end.
La COP28.
Non, à Belfort, près de chez moi.
Belfort, dernier week-end. Pendant la COP, là. Pendant la COP
28. Non,
précisément. COP 28.
Ouais.
Moi, j'appelle
ça. Non, parce qu'il y a une 2023, oui.
Oui, voilà. COP de 2023.
Ouais, ok.
Et voilà. Ce que je voulais dire simplement, c'est que, à Belfort, il y avait une fête qui était organisée dans les anciens locaux de Alstom.
Une fête foraine?
Ah, Alstom.
Une fête officielle.
C'est un scandale.
Organisée par qui?
Les Américains?
Non.
Les une Japonais?
Non.
Les Allemands?
Les Israéliens?
Non.
Par Alstom, je sais pas.
Les par EDF.
D'accord.
Pourquoi par EDF?
J'étais pas loin.
Parce que, et ça s'est arrêté, la fête a été interrompue, je dirais, là, 2 heures avant, parce que EDF avait eu un accord pour reprendre la fabrication et la maintenance des turbines Arabelle, qui servent pour toutes les centrales nucléaires et qui avaient été vendues à General Electric par Macron.
Okay. Oui, à l'époque. Mm-hmm.
Et dans une négociation qui a eu lieu entre la France et les États-Unis, il était prévu que EDF rachète toute cette partie-là. Or, les Américains, alors poussés par les Allemands, j'expliquerai derrière les
Néerlandais, ils nous ont pas laissé le choix.
Ont en fait stoppé la vente à la France à nouveau de ces turbines Arabelle qui, à l'origine, c'est la France qui en 2015 les a vendues effectivement pour 500 millions aux Américains. Et là, ils voulaient nous les, donc on était prévu de les acheter pour 800 millions.
Oui, plus cher. Plus normal. Cher.
Donc on avait perdu effectivement
300 millions.
300 millions. Or, les Américains ont dit stop parce que il y avait des contrats entre, je dirais, les fabricants, donc Arabelle, et puis Rostom, qui fabrique pour les Russes un certain nombre d'éléments des centrales nucléaires qui sont vendus à la Chine et dans d'autres pays. Donc, au titre, je dirais, de l'embargo contre la Russie, ils ont stoppé cette fête. Voilà. Là, oui. Donc, c'est pour ça pour dire, c'est que il y a une pression permanente qui est exercée par les Américains pour empêcher aussi l'économie française de fonctionner correctement.
Mais comment s'y soustraire, en fait, aussi?
Justement, en prenant conscience de ça et en osant le dire. Parce qu'aujourd'hui, pendant des années, on n'a rien dit. Rien. Et on a laissé faire. Je prends l'exemple aussi du couple franco-allemand. Le couple franco-allemand, c'était au départ De Gaulle, etc., qui ont voulu, après la guerre, avoir une amitié entre les deux peuples, et c'est normal. Mais petit à petit, je dirais, ça a marché avec François Mitterrand, et puis petit à petit, ça s'est dégradé. Et aujourd'hui, est-ce que ça marche?
Non.
Ben non, ça marche pas parce qu'ils nous achètent rien.
On veut faire des projets avec eux.
On leur vend pas mal.
On veut faire des projets, et ça marche pas. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, on a des preuves, et donc à travers les archives aussi qui sont apparues, que les Allemands ont financé deux organisations, deux fondations, pour, pendant des années et des années, je dirais, déstabiliser le nucléaire français. Et effectivement, à travers des lobbies, et donc deux organisations, je dirais, allemandes, eh bien, la France s'est retrouvée déstabilisée.
Colonel, on reviendra avec vous à la fin de l'émission, à partir de 21h30, 21h40. Dans quelques instants, nous aurons un intervenant sur la chirurgie esthétique. C'est bien fait, c'est méfait, vous en saurez un peu plus. Et en ce qui concerne donc le panorama, on a pu évoquer rapidement tout ce qui était conflit ukraino-russe, tout ce qui est aussi le couple franco-allemand et...
Et américain.
Et les Américains.
Les relations avec les Américains, oui.
Et la puissance américaine. On en saura un peu plus sur l'état du monde. À partir de 21h30, 21h40, on fait une pause musicale et on revient juste après avec notre invité du soir, le docteur Louafi.
Tyson, Jordan, Game 6. Jordan, game 6.
Dynamic Radio. Dynamic.
Allez, bonsoir à toutes et à tous. On est en direct ce soir dans la Libre Antenne et notre invité du soir, c'est le docteur Loafi. Bonsoir docteur, vous m'entendez ?
Bonsoir.
On est avec vous ce soir pour parler des bienfaits et des méfaits de la chirurgie esthétique. Est-ce que vous pouvez vous présenter dans un premier temps en deux mots ?
Oui, je suis docteur Adel Loafi, chirurgien plasticien, chirurgien esthétique. À Paris, et je suis aussi président du syndicat national de chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique.
Très bien, donc vous représentez la profession ce soir, si je l'entends bien.
Oui, je représente effectivement le syndicat national de chirurgie plastique regroupe des centaines de chirurgiens plasticiens dans toute la France, effectivement. Donc voilà, donc c'est l'ensemble de la profession, oui, tout à fait.
Très bien. Est-ce qu'on a une question d'ores et déjà autour de la table ? On va peut-être passer la parole à Isabelle, alias Zaza. Est-ce que tu as déjà eu recours à la chirurgie esthétique, d'ailleurs, avant
Jamais de la vie.
Jamais de la vie.
Je suis bien trop parfaite pour ça. J'ai rien à refaire, moi.
Très bien. Bah, vous l'aurez compris, docteur. C'est rarement facile de dire qu'on a eu recours à la chirurgie esthétique, docteur. Hein.
Oui, c'est vrai, mais c'est de moins en moins tabou aujourd'hui. Il y a de plus en plus de patientes qui viennent avec leur copine, ou alors qui viennent avec la maman qui vient avec sa fille, ou avec sa cousine, ou l'épouse avec son conjoint. Enfin, ça devient de moins en moins tabou quand même, hein. Ou la collègue de travail.
On va tous y aller ensemble, là.
Tous ensemble.
On en parle de plus en plus facilement, oui. Aujourd'hui, c'est moins tabou quand même.
Et d'ailleurs, il y a de plus en plus d'hommes, hein, qui font appel à la chirurgie esthétique. Moi, j'ai vu dans les stats, si mes stats sont bonnes, ça fait maintenant 20% de la patientèle, alors qu'avant c'était 5% il y a 10 ans.
Oui, c'est à peu près ça. C'est à peu près ce qu'on voit dans les cabinets de chirurgie esthétique. À peu près, 20% sont des hommes, absolument.
20% sont des hommes. Autour de la table, si chacun d'entre vous devait refaire quelque chose, ça serait quoi comme ça ? Isa, par exemple, je commence par toi.
Si vraiment tu me donnes carte blanche et que c'est pas une question de budget.
La totalité.
C'est pas une question de budget, vraiment.
Ouais, vraiment. La totalité.
Punaise.
Non, mais bon, un truc, quoi.
Je crois que je fais genre un micro-lifting du bas du visage.
Micro-lifting.
Pas un lifting complet, quoi. Très juste le bas du visage. Attends, j'ai pas fini.
Ah oui.
Tu me donnes crédit, tu me donnes carte blanche et une lipo, bien sûr.
Et une lipo. Ah
oui.
Voilà.
Ouais, une petite lipo au niveau du ventre.
Voilà, lipo.
Un peu de botox, hein.
Du botox.
Du botox à ton âge.
Ouais.
Mais t'es sérieux, mec? Est-ce que tu veux botoxer,
colonel?
Un petit dégazage pour l'aérophagie.
D'accord. Je sais pas si ça.
Ça c'est pas
cher.
Non, c'est juste un petit trou, mettre un petit trou pour dégazer.
Mikey, qui est...
Oh, peut-être refaire mes pecs. Parce que pecs. Apparemment, je sais pas si, enfin, vous allez me dire si c'est vrai ou pas, mais apparemment, c'est à la mode en ce moment-là. Il y a des hommes qui font la muscu, mais souvent, les pecs, ça a plus de forme de sein que de pecs. Hein,
voilà, on va poser la question au docteur. Là, du coup, d'après ce qu'on vous dit, là, sur le mini-sondage que vous avez pu faire.
T'as pas répondu, toi?
Non, mais moi, pour l'instant, ça, je dirais une lipo, comme ça m'évitera d'aller, de faire les abdos, celle de sport.
Il y a du boulot.
Docteur,
hein.
Un mot sur toutes ces pratiques-là?
Oui, alors c'est effectivement des pratiques très courantes, tout ce que vous avez cité, la liposuction, les injections de botox, l'acide hyaluronique, évidemment, mais les liftings du visage, les paupières. Après, il faut bien voir que la chirurgie, ce qu'on appelle la chirurgie esthétique, plastique et reconstructrice, c'est quand même quelque chose qui est beaucoup plus large que ça. Ça touche aussi tout ce qui est, par exemple, les femmes qui ont une trop forte poitrine et qui veulent la réduire, qui leur fait mal au dos. Ce qu'on appelle les réductions mammaires.
C'est aussi
la reconstruction mammaire après les cancers du sein.
Tout à fait. Ouais.
Il y a beaucoup de choses. C'est aussi la chirurgie réparatrice du ventre, par exemple, après les grossesses. Donc il y a tout cet aspect-là. Et il y a aussi, plus trivialement, si je peux m'exprimer ainsi.
Oui, bien sûr.
Effectivement, les liposuctions, les lipofillings, c'est-à-dire la réinjection de graisse, puisque maintenant, il y a la révolution de la graisse, c'est-à-dire qu'avant, on aspirait la graisse et on la jetait, et maintenant, on aspire la graisse et on la filtre, on la travaille, on la réinjecte dans les seins, on peut la réinjecter dans les fesses. On peut même faire maintenant ce qu'on appelle du nanofat. C'est encore des procédures encore plus poussées de filtration avec de la biostimulation. Bref, il y a tout un univers avec la graisse aujourd'hui qu'on est en train de découvrir avec des possibilités extraordinaires.
Donc la graisse c'est beau pour la
santé.
Pour la santé.
La graisse c'est bon pour la santé. Oui, en tout cas c'est bon pour la beauté.
C'est bon pour la beauté. Question de Stan.
Ouais, dites-moi docteur, j'ai une question parce que moi franchement je l'en vois tous les jours les femmes qui se refont faire les lèvres, mais c'est affreux. Je ne comprends pas.
Alors ça, c'est
comment c'est possible d'avoir des lèvres aussi
alors,
énormes.
Expliquez-moi ça, parce que soit c'est mal fait, ou soit...
Je vais vous répondre. Oui. Le problème actuellement, c'est qu'on a une explosion de ce qu'on appelle les fake injectrices.
D'accord. Oui, absolument. Absolument.
Alors, j'en profite justement pour alerter. J'ai beaucoup alerté dans les médias sur ce sujet. Et le syndicat national de chirurgie plastique et esthétique a beaucoup alerté. Nous avons même fait une tribune de 200 chirurgiens esthétiques dans le Parisien.
Oui.
Pour alerter les autorités sur ce sujet. De quoi il s'agit? Il s'agit de personnes qui ne sont pas chirurgiens esthétiques, qui ne sont même pas médecins et qui pratiquent dans la plus grande illégalité des injections d'acide hyaluronique, parfois de Botox, qui est un médicament qui normalement est réservé à certains spécialistes, et qui injectent ça dans des cuisines, dans des Airbnb, parfois dans des espèces de pseudo-cabinets esthétiques. Alors, qu'est-ce que ça pose comme problème? Ça pose, en dehors du problème esthétique que vous avez cité, c'est-à-dire que c'est pas le bon produit, et là vous avez parlé des lèvres trop surinjectées, ce qu'on a pu appeler parfois les lèvres de canard,
oui, de crise.
C'est-à-dire des lèvres surinjectées avec parfois des quantités énormes cette séance, et pas les bons produits. Alors en dehors de cet aspect esthétique, qui sont très souvent, ce que vous voyez, c'est souvent des personnes qui ont été injectées par des fake injectrices. L'autre problème, c'est pose vraiment des gros problèmes de sécurité, parce que quand on injecte dans un visage, il faut savoir qu'il y a des artères, qu'il y a des nerfs, qu'il ne faut pas les toucher.
Absolument.
Et qu'il peut y avoir des complications très très graves, comme des infections, comme des nécroses, et il y a de très nombreux cas, malheureusement des dizaines d'hospitalisations aujourd'hui en France, qui est délirant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui en France, on voit plus de patientes hospitalisées suite à des complications d'injection, ce qui devrait être un acte totalement anodin et bénin si c'est fait par un chirurgien esthétique ou un médecin qualifié, et on en voit plus que de patientes hospitalisées suite à des grosses complications de chirurgie esthétique.
Est-ce qu'elles sont récupérables, ces filles-là?
C'est ça, le pire, c'est qu'après, c'est vous qui les récupérez.
Attends.
Mais c'est pas toujours récupérable quand c'est des infections, des abcès. Moi, l'année dernière, j'ai fait hospitaliser 6 patientes comme ça en urgence suite à des complications graves d'injection et ce qui se passe. Alors maintenant, les autorités de police sont de plus en plus actives sur le sujet. Il y a eu beaucoup d'arrestations, des interpellations, des perquisitions. Et je peux vous dire que dans les affaires qui sont suivies par la police, on a trouvé, tenez-vous bien, des faux produits, de l'acide hyaluronique en bocal, comme de la confiture qu'elle prélevait ensuite, qu'elle utilisait dans des seringues. On a trouvé des seringues d'acide hyaluronique avec présentées comme des seringues neuves avec 50 fois le taux de bactéries. On a trouvé des produits d'anesthésie générale, je dis bien des produits d'anesthésie générale, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui font des mini anesthésies générales dans des cuisines
et le pire c'est quand c'est carrément des faux produits. Parce qu'il y a le problème du vrai Botox, entre guillemets, mais qui n'est pas maîtrisé par des personnes qui ne sont absolument pas formées et dont c'est pas le métier. Mais il y a aussi le problème
des
elles se fournissent comme elles ont des tarifs qui sont extrêmement...
Il y a des réseaux de contrebande.
Voilà.
Il y a de tout et de rien qui se vend sur Alibaba, sur des sites comme ça, sur Internet. Et c'est dramatique ce qu'on a vu des produits. On a vu dans un cas récent un produit dans une perquisition, donc la police a débarqué chez l'injectrice illégale, on a trouvé des produits interdits dans toute l'Union européenne.
Tout à fait.
Qui étaient donc pour des techniques interdites en France depuis 10 ans, qui sont interdites depuis 10 ans en France, des techniques dangereuses, et pour être pratiqué par quelqu'un qui
est pas formé,
aucun diplôme, rien, qui est pas médecin, qui est rien du tout, rien. Pour vous donner le niveau de, et on a des affaires, il y a des affaires qui vont être bientôt devant les tribunaux où il y a des centaines de victimes déclarées, pour une seule injectrice. Donc hier une condamnation à 9 mois de prison et 35 000 euros de dommages et intérêts pour une seule victime déjà. Seule victime, 35 000 euros de dommages et intérêts et 15 000 euros à payer parce que c'est l'assurance maladie qui paye les hospitalisations.
Ah bah oui,
c'est
derrière,
l'assurance
oui,
maladie qui paye les arrêts de travail. Donc l'injectrice illégale a été condamnée à payer 15 000 euros à l'assurance maladie, 35 000 euros à la victime. Bon voilà, c'est un peu, vous voyez, la situation dans laquelle on est. Donc j'en profite vraiment, je pense que c'est un message de santé publique à faire passer, surtout aux jeunes.
Et ben c'est ce que vous faites actuellement. Question de Yann qui fait partie de l'équipe également.
Moi justement, j'avais une question.
Alors un instant Yann.
Vous parlez de jeunes, c'est quoi à peu près le profil en fait de personnes que vous allez, des patients? Parce que moi dans mon imaginaire, ça va plutôt être des personnes d'un certain âge qui sont assez aisées. Et je voulais savoir quel type de patients en fait vous avez.
C'est jeune.
Alors il y a un rajeunissement, il y a un rajeunissement de la patientèle.
C'est l'effet filtre.
C'est vrai que classiquement,
exactement,
alors,
mais c'est vrai.
Évidemment. C'est clair. On a toujours des personnes d'âge plus mûr,
ouais,
qui viennent en particulier pour les paupières, pour des liftings. Mais on a aussi des personnes plus jeunes, donc je parle en matière d'esthétique, qui viennent par exemple pour des injections d'acide hyaluronique ou pour des injections de Botox ou bien sûr pour des prothèses mammaires ou des choses comme ça. Il y a aussi un gros boom des liposuctions et il y a toujours sur la liposuction, j'ai parlé tout à l'heure des lipofillings, mais aujourd'hui aussi on a des techniques, c'est-à-dire qu'on a plusieurs combinaisons dans la liposuction. On peut utiliser certaines techniques de raffermissement de la peau en même temps qu'une liposuction, donc on peut faire des liposuctions plus précises. On a de ce qu'on appelle des liposuctions water assisted liposuction, des liposuctions assistées par infiltration aqueuse. Bref, on a plusieurs techniques dans la liposuction qui ont permis d'améliorer les résultats et les suites. Et on a des patientes donc et des patients plus jeunes qui viennent aujourd'hui par l'influence des réseaux sociaux. Et
Quel âge, à peu près, docteur?
C'est 18-35 qui sont les qui font le plus appel à la médecine esthétique.
Merci, docteur.
Non, mais je lui demande confirmation.
Oui, absolument, ouais. Il y a beaucoup de jeunes dans cette tranche d'âge, 18-35. Il y a une grosse influence des réseaux sociaux. Il y a l'image des filtres, filtres.
Tout à fait.
L'image du filtre parfait. Vous connaissez peut-être ce filtre sur TikTok.
Oui, tout à fait.
Ouais.
Qui a magnifique. Beaucoup fait parler de lui, où on peut,
docteur, grâce à ce filtre.
Vous savez, docteur, c'est une arnaque, parce que quand vous rencontrez la nana, bah derrière, vous trouvez qu'elle est moche, alors qu'en fait, elle était belle sur l'écran, mais quand vous la voyez en vrai, elle est moche.
je dirais pas ça, mais je dirais que les filtres renvoient une image faussée de la réalité, c'est-à-dire une espèce d'image de, en fait, alors, à la fois entre guillemets de perfection, ce qui n'existe pas, et en même temps une image un peu standardisée. Donc c'est des filtres qui ramènent tout un peu vers le même visage. Or la beauté est dans la différence, la beauté et le charme est dans les particularités de chacun. Et c'est vrai que ces filtres, malheureusement, sur des personnes jeunes qui sont pas encore suffisamment bien affirmées dans leur personnalité, eh bien ces filtres peuvent avoir une influence très négative. Donc c'est vrai que c'est assez terrible.
Docteur, est-ce que c'est comme chez le coiffeur quand on vient, vous avez des modèles, des magazines, et on dit bah c'est un peu comme le filtre. Moi je voudrais être comme ça. On vient avec son smartphone et la jeune fille vient vous voir et vous dit bah moi j'ai ce filtre là, je suis bien comme ça. Est-ce que vous pouvez me faire la même chose? Est-ce que ça vous est arrivé ça?
Alors bien sûr, il y a des patientes qui viennent comme ça avec des Hatfield et en disant voilà moi je veux ressembler à Taylor Hatfield. Et évidemment ça fonctionne pas comme ça. Il y a des possibilités techniques, ce qui est possible, ce qui n'est pas possible. Mais comme vous parlez de catalogue, on a parfois des situations un petit peu folles en consultation. Et parfois, j'ai le souvenir d'un couple qui était venu. Où le monsieur avait sur son téléphone un catalogue de fesses et donc
est-ce que vous pouvez faire ça ma femme s'il vous plaît
et donc il fallait faire les fesses pour madame selon le catalogue des
filles. Ah quelle horreur,
énorme, bravo. Donc,
quelle horreur,
c'est génial.
Est-ce que c'est
situation. Le rôle du chirurgien esthétique est bien sûr de se poser ici en tiers neutre et en tiers de conseil.
Tout à fait.
Et évidemment que la première chose que j'ai dit, c'est madame, est-ce que vous êtes gêné ou complexé par vos fesses d'abord? Commençons par ça.
Déontologie.
C'est ça. Ouais.
Et la réponse de madame
a été
assez claire. Donc la réponse de madame a été assez claire, c'est que ça les gênait pas.
Donc
j'ai dit on va s'arrêter là. Je vais pas opérer madame qui n'est pas complexée pour faire plaisir à monsieur. Ça.
C'est clair.
Est-ce que pour votre profession, docteur, est-ce que on doit s'inquiéter d'avoir de plus en plus de jeunes qui viennent dans vos établissements, ou au contraire on doit au contraire ne pas s'inquiéter?
Alors, le fait que les jeunes viennent, alors déjà, si les jeunes viennent dans un cabinet de chirurgie esthétique ou dans un cabinet d'un médecin qualifié, je ne m'inquiète pas parce que premièrement, le chirurgien esthétique ou le médecin a un rôle de conseil, et que donc si la demande n'est pas adaptée, et on voit des demandes inadaptées ou des demandes trop jeunes. Moi, tous les jours, je refuse des demandes. Je reçois énormément de demandes, que ce soit sur les réseaux ou par mail, que ce soit sur Insta ou sur TikTok ou par mail, etc. Mm-hmm. Mais je refuse énormément de demandes, puisque, par exemple, pour des injections, une mineure, j'injecte pas les mineurs, vous voyez.
Même avec le consentement de leurs parents? Avec un accord écrit? Non, du tout.
Non.
C'est par principe, vous dites, elles en ont pas besoin, quoi.
T'imagines les parents?
Mais même, je vais vous dire, même il y a un règlement européen qui interdit les injections d'acide hyaluronique chez les mineurs.
Ok, heureusement, tant mieux.
Malheureusement, chez les fake injectrices, c'est ces personnes, voilà.
Donc,
c'est un problème qui, elle, alors je peux vous dire qu'elle se demande même pas ni le règlement européen, ni l'autorisation des parents, ni rien du tout. Quoi.
Et du coup, docteur,
elles injectent même à 13 ans ou à 14 ans.
Hein. Pour rebondir, en fait, pour nos auditeurs qui nous écoutent, en fait, comment bien choisir son chirurgien?
Alors, d'abord, première chose qui peut paraître évidente, c'est il faut s'assurer que vous êtes bien en face d'un chirurgien esthétique. Et donc, pour ça, d'abord, en général, les chirurgiens mettent leur qualification. D'abord, ils s'appellent docteur. Ils mettent leur qualification, que ce soit sur leur site ou sur leur réseau. Quand vous allez sur leur site, il y a en général leur CV qui est détaillé. Et puis, si vous allez sur le site de l'annuaire du Conseil de l'Ordre, vous allez voir qu'ils sont bien inscrits dans la qualification chirurgie plastique ou constructrice esthétique.
L'annuaire du Conseil de l'Ordre.
Voilà, ça c'est la première chose, c'est vérifier qu'on est bien en face d'un chirurgien esthétique et pas d'un charlatan ou d'une fake injectrice entre guillemets. Mm-hmm. Deuxièmement, une fois que vous avez fait ça, vous avez les recommandations, le bouche à oreille, donc vous avez des recommandations de personnes que vous connaissez, ou plus largement des recommandations sur Internet. Aujourd'hui, les gens regardent beaucoup les recommandations.
Les avis Google, oui.
Les avis Google, etc. Et puis, après, vous avez aussi, avant de venir en consultation, vous avez des éléments, donc déjà dans le cursus du chirurgien, vous pouvez voir son cursus universitaire, s'il a été, par exemple, ancien chef de clinique, vous pouvez voir un certain nombre d'éléments, et s'il est adhérent à des sociétés savantes. Nous avons différentes sociétés savantes françaises, des sociétés savantes internationales, qui participent régulièrement à des congrès. Et puis, vous avez également... Il y a cette part, je dirais, il faut qu'un chirurgien esthétique et un patient ou une patiente, il faut qu'il y ait une compréhension mutuelle.
Complètement.
Un consentement mutuel et une compréhension mutuelle. C'est-à-dire qu'il faut que le chirurgien soit à l'écoute, d'accord ? Et il faut que la philosophie peut-être du chirurgien aussi corresponde un peu à ce que recherche la patiente. Par exemple, si la patiente est vraiment dans quelque chose de subtil, de naturel, de voilà, eh bien peut-être qu'il faut s'orienter vers un chirurgien qui va être plutôt dans cette optique-là,
ouais.
Parce qu'il y a des chirurgiens, bon, chacun a sa façon de travailler. Donc, il faut aussi qu'il y ait quelque chose un projet. C'est un projet qui se construit à deux, le projet d'une chirurgie esthétique. Et donc, vous pouvez aussi avoir un feeling de par rapport à ce que décrit le chirurgien esthétique dans sa philosophie. Et puis, les explications, il y a beaucoup de chirurgiens qui donnent déjà beaucoup d'explications, que ce soit sur leur site internet, que ce soit sur leur réseau. Et donc, vous pouvez déjà avoir aussi une idée de des explications, etc. Parce que c'est vrai que malheureusement, ça peut arriver malheureusement que la patiente vienne en consultation, qu'elle trouve que le chirurgien a été trop rapide dans ses explications, que ce que les patientes appellent le feeling entre guillemets ne passe pas, c'est-à-dire qu'en fait elles ne sentent pas que le chirurgien va pouvoir répondre à leurs attentes parce qu'elles ne sentent pas qu'il a compris ce qu'elles voulaient. Et donc ça c'est important. Et parfois on peut avoir déjà une première approche rien qu'en en regardant aussi. Moi j'invite vraiment les patientes à se renseigner sur le chirurgien, à lire, à aller sur ses réseaux s'il a des réseaux, à aller sur son site internet s'il a un site internet. Et à se renseigner déjà avant de venir en consultation. Et
question du colonel. Ah oui, juste une petite question complémentaire. Est-ce que justement, avec vos patients, il n'y en a pas un certain nombre que vous aiguillez chez les psychologues ou chez les psychiatres ?
Alors, ça arrive évidemment qu'il y ait des patients qui soient du ressort d'un psychologue ou d'un psychiatre.
Complexe, je suis gros, je suis passible. Les personnes qui ont été humiliées, blessées par des réflexions dans la famille et qui finalement ont simplement besoin, je dirais, d'être accompagnées et puis de réaliser combien elles sont belles telles qu'elles sont, quoi.
Oui, absolument. Et on a aussi, il y a aussi ce que l'on appelle la dysmorphophobie, qui est une pathologie psychiatrique. Et on en voit régulièrement en consultation de chirurgie esthétique. On voit régulièrement des patients qui focalisent sur un micro détail qui est souvent à peine visible ou pas visible et qui relève vraiment de la psychiatrie. Donc là, c'est vrai que ce qu'on essaye de faire dans ces cas-là, c'est plutôt donc de faire un courrier au médecin traitant parce que c'est quand même lui qui connaît et qui suit le patient, etc. et qui est plus à même de l'amener vers des consultations de ce type. Bien voilà, sûr. Donc de type psychologue ou psychiatre.
C'est sûr, et quand vous dites en fait que vous faites beaucoup d'écoute, en fait je pense qu'il y a quand même une démarche effectivement d'écoute des personnes qui sont blessées et qui ont besoin aussi de se sentir mieux aimées, quoi.
Absolument. Après, il faut pas non plus, je veux dire, on a vraiment un problème, on peut tourner autour du pot pendant des années. Et parfois, ça ne peut être réglé que par une chirurgie esthétique. J'ai envie de dire, moi, j'opère par exemple beaucoup d'enfants, par exemple pour des oreilles décollées. Prenons ce cas très simple.
Oui.
Eh bien, c'est des enfants qui vont subir des moqueries pendant plusieurs années. Bon, on peut tourner autour du pot, mais si l'enfant le vit mal, il ne supporte pas et qu'il est victime
bien
de
sûr,
moquerie,
bien
etc.,
sûr, bien
eh bien, on peut le faire sans problème.
C'est ce qu'a fait Danny Boone, d'ailleurs.
Il y en a plein.
Inversement, je vais vous donner un cas inverse. Il m'est arrivé de recevoir en consultation un couple avec un enfant qui était venu donc en consultation, qui avait tout de suite abordé le sujet donc de la date opératoire qui devait être pendant les vacances scolaires, etc., pour opérer l'enfant des oreilles décollées. Donc je les ai écoutés, je les ai parlé, etc. Et une fois qu'ils ont fini de parler et qu'ils me demandaient les dates opératoires, je me suis naturellement tourné vers l'enfant. Je lui ai dit « Mais toi, t'en penses quoi ?» Et lui, il m'a dit « Moi, je m'en fous de mes oreilles. »
Dans ces cas-là.
Voilà, vous avez votre réponse.
Super. Docteur, j'ai une question pour vous. L'homme ou la femme la plus parfaite pour vous en tant que chirurgien esthétique ?
Oh, bah, ça c'est complètement débile.
Ou pas.
Ou pas, hein.
C'était la Barbie Girl.
La réponse est très facile. La femme la plus parfaite, c'est mon épouse.
Ah!
Et, alors, magnifique. Faudra nous l'envoyer en photo en MP, hein. Docteur, comme ça on va vérifier.
Alors moi j'avais une... Moi,
une question de Mikey.
Question,
et on va conclure après.
Est-ce que tous les actes chirurgicaux, en fait, enfin dites esthétiques, sont remboursés ou elles sont toutes payantes?
Malheureusement, il y a beaucoup d'actes de chirurgie parce que la frontière entre la chirurgie plastique et esthétique est très floue en fait, oui. Elle est très limitée, voilà, et un peu arbitraire surtout. Et donc malheureusement, il y a beaucoup d'actes qui ne sont pas remboursés. Il y en a d'autres qui sont remboursés. Par exemple, si vous avez une bosse sur le nez que ça vous complexe, le simple fait d'avoir une bosse sur le nez que ça vous complexe, c'est pas remboursé. Si vous avez les oreilles décollées et que ça vous complexe, c'est remboursé.
Par exemple, un enfant qui est en obésité morbide, par exemple, et qui est suivi par un centre de rééducation. Nutritionniste et tout ça, et que du coup il a perdu du poids, mais la différence, il lui reste la peau, le gras, et comment ça marche?
Alors par exemple dans les séquelles de perte de poids, il y a des prises en charge partielles avec l'assurance maladie. Après ça dépend, parfois il peut y avoir une très grosse perte de poids, et si ça tombe pas sur, entre guillemets, par exemple si on n'a pas un tablier abdominal, malgré qu'il y ait une très forte perte de poids, ça ne rentre pas dans les critères de l'assurance maladie. Et parfois, il y a une petite perte de poids, mais il y a ce qu'on appelle un tablier abdominal, ça rentre dans les critères de l'assurance maladie.
C'est bizarre.
Donc, c'est très...
Pour quelle raison ?
Malheureusement, moi, je vais vous dire ce que je pense. Moi, je pense que la chirurgie, que quand on amène quelqu'un au bloc opératoire, on est sur un acte thérapeutique. On est sur quelque chose qui va faire du bien, qui va... vraiment apporter un mieux-être, parce que c'est ce qu'on voit au quotidien dans nos consultations et dans nos opérations. Et je trouve que on est vraiment, sinon on ne prêterait pas un coup de bistouri, si vous voulez. On ne va pas faire une anesthésie générale et mettre un coup de bistouri comme
sûr.
Ça. Voilà. Donc c'est parce que on est intimement convaincu que ça va apporter un mieux-être important à la personne qu'on va opérer. Et c'est ce qu'on voit dans nos consultations de chirurgie esthétique, et les patientes nous remercient mille fois, les patients, parce qu'il y a aussi des hommes qui se font opérer, donc les patients nous remercient mille fois. Vous pouvez pas imaginer à quel point c'est gratifiant pour nous, et c'est vraiment, moi c'est ce que je dis, c'est ma raison de travailler, c'est ça, c'est quand je vois les
patients qui viennent remercier.
Voilà. Donc je pense qu'on est aimé. Malgré ce côté tout à fait thérapeutique de la chirurgie plastique reconstructrice esthétique, malheureusement, pour des raisons de budget, parce que l'assurance maladie ne peut pas tout payer, malheureusement, il y a beaucoup de gestes qui ne sont pas pris en charge par l'assurance maladie.
Docteur, d'ailleurs, question rapidement, là, c'est des questions que se posent les auditeurs. En fait, c'est quoi les prix, là, concrètement, pour se refaire le nez? Ça coûte combien pour faire une lipo? Ça coûte combien pour se refaire les tests?
En moyenne, quoi.
Alors, ça dépend des chirurgiens aussi, mais.
Alors, premièrement, ça dépend des chirurgiens et ça dépend de la complexité du nez.
Ouais.
Parce que je prends par exemple le nez. C'est ce qu'on appelle une rhinoplastie tertiaire, c'est-à-dire que c'est la troisième intervention sur le nez qui peut prendre un morceau de côte ou un morceau de cartilage.
Ça fait mal.
Évidemment que le devis va pas être le même. Que
50 000
si c'est
balles.
Juste une rhinoplastie de la pointe, on va juste affiner un petit peu la pointe. De façon générale, les interventions, on va dire que il y a des interventions qui démarrent à 3 000 euros et puis il y a des interventions à 10 000 euros, 15 000 euros.
C'est raisonnable.
Tout dépend de ce qu'on fait. Et puis tout dépend aussi de la notoriété du chirurgien.
Ça joue beaucoup.
Ouais. Et puis de l'endroit où se passe l'intervention.
Donc vous l'avez compris.
L'endroit où se passe l'intervention, oui, bien sûr. Voilà.
Vu la notoriété du docteur, ça va être très très cher.
Non.
Moi j'ai un gros nez, docteur.
Ouais. Alors c'est vrai que votre animateur, il a un gros nez.
Il a un très gros nez.
Il a un nez de galabru. Hein. Ça va être compliqué, ça.
On verra ça. Docteur. Dernière question de Zaza.
Est-ce que vous diriez que vous avez observé dans votre dans le nombre d'opérations ou de patients, une grosse augmentation, notamment depuis le Covid, et avec tout ce qui est réunion en visio.
Une grosse, oui, bien sûr, les vidéos, les zooms, parce qu'en fait, il y a une déformation. Quand on se regarde, on n'est jamais à son avantage quand on est en zoom, avec la caméra qui, avec l'effet qu'on appelle fish eye, avec la caméra qui déjà déforme complètement. En plus, il y a un éclairage qui est très mauvais et qui, en général, accentue les cernes, accentue l'aspect fatigué du visage. Et puis grossit le nez, enfin bon, c'est bref, c'est
ah bah c'est pour c'est ça que j'ai un gros nez alors.
C'est à cause de la vision.
Tu l'avais déjà le gros nez.
C'est pour ça que ces verres, il paye cher parce qu'il faut des grands verres.
Très bien, une dernière question.
Il y a un effet zoom.
Ouais, il y a un effet zoom. Et est-ce que vous avez eu des célébrités qui sont passées vous voir?
Bah Dwayne Johnson.
Je te le dire.
Voilà. Évidemment, je vais pas vous donner de
bah non.
De
non, ah bah oui, non. Mais oui, bien
c'est
évidemment.
C'est confidentiel.
International ou pas,
Meudon? Des célébrités internationales, oui, j'ai eu des célébrités.
Oh là là. Oh. Eh ben, il nous le dira pas en antenne.
Oui. D'ailleurs, s'il y en a une qui est célibataire, là, je suis célibataire. Hein.
Vous n'avez pas le droit, vous avez tout à fait raison.
La confidentialité.
Oui. Donc, ferme.
Eh ben, merci, Adèle. Docteur Adèle,
merci,
c'est gentil. Merci à vous, d'être passé dans la libre antenne.
Prenez soin de vous.
Merci.
Merci,
au revoir.
Ciao. Bon, bah voilà, le docteur était avec nous, on le remercie, c'était
ouais,
super.
C'était
très intéressant.
Très intéressant, on a appris plein de choses, ça c'est sûr, on a appris plein de choses, énormément de choses, voilà, notamment pour se refaire le nez, ça coûte 3000 balles. Donc voilà, pour un début,
Ouais, pour une
mais
première.
C'est minimum.
Et avec le docteur de Montluçon.
Mais c'est pour ça qu'il y a beaucoup de jeunes qui partent à l'étranger, est-ce que c'est moins cher?
Et après, c'est moins cher. Ça c'est.
Mais t'as pas posé la question, tête de nœud.
Ça c'est une bonne réflexion qu'il a.
Non,
mais c'est une bonne réflexion.
On aurait dû poser la question.
À l'étranger, c'est moins cher.
Ah oui, mais pourquoi
mon frère. Mon frère.
Et
oui, mon frère.
On fait une condition, voilà, c'est peut-être
plus dangereux. Mais
les conditions sont pas les mêmes.
Tout dépend.
Ça dépend des pays.
Ceci étant dit, moi je suis allé à Madagascar et je me suis fait soigner les dents. Le devis avant de partir en région parisienne était 6 000 euros.
Ils sont tous tombés.
En Madagascar, ils étaient à 500.
Et 10 000. 4, et 6 000 euros
pour les dents.
Le même devis à Madagascar, 450 euros.
Ben voilà, vous aurez tout compris.
Et alors,
fait par un dentiste remarquable, qui a fait toutes ses études en France et qui a fait un boulot magnifique.
Magnifique, ouais. Bravo. Voilà, bravo, donc comme
c'était
quoi,
le mot de la fin.
Les médecins, il y
en
a
partout. Ouais, mais se méfier quand même énormément
de la prudence.
Tout ce qui est clinique, esthétique, à l'étranger, avec des
forfaits.
Voilà, des forfaits tout compris, avec le voyage, rester dans un hôtel pendant X nuits. Et l'opération.
Ça, c'est très important. T'as entièrement raison.
Comment tu t'es
fait attention,
colonel? Comment tu t'es renseigné pour tes dents? Comment t'as fait? Donne-nous la
parce
démarche de ce que tu as fait.
Parce
que
j'ai fait un devis en France que j'ai trouvé trop cher et en même temps je partais pour d'autres raisons. Je partais pour d'autres raisons à Madagascar.
Bien sûr.
Et là-bas, les amis qui m'ont accueilli m'ont dit Henri. Ah bah tiens, j'ai très bon dentiste, eh ben écoute, va voir.
Donc c'est sur conseil de tes amis que tu as été là-bas. Oui, mais est-ce que toi t'as regardé, est-ce que t'as eu l'occasion de regarder un site internet ou quelque chose qui a fait que tu dis bon...
Non.
Tu as c'est fait confiance directement aux amis.
Il faut se confier, je pense. C'est les amis qui connaissent, qui peuvent être de bons conseils.
D'accord.
Moi je pense que ça peut être une réflexion, c'est que la chirurgie dentaire, c'est pas remboursé. Mais
en même temps,
il faut penser derrière aussi à la santé de la personne et à ce qu'elle mange, parce que si elle a plus de dents, bah du coup il y a un régime derrière, enfin il y a tout, enfin c'est quand même.
Ah il y a tout. Puis s'il y a plus de cheveux, c'est pareil. Ah.
Exactement.
Il paraît que c'est la Turquie là.
Ça, c'est alors s'il y a plus de dents et plus de cheveux.
Non,
c'est
la cata. Non mais voilà.
Le côté beau. Bon.
Puis vous l'aurez compris, il y a la reconstruction aussi.
Ouais.
Voilà, on a le chirurgien esthétique. Intervient aussi sur tout ce qui est quand vous avez une poitrine trop forte, vous faites une réduction mammaire. Quand vous n'avez pas de poitrine, vous
faites soulagement de
une augmentation mammaire. C'est pareil pour les garçons.
Ça change. Est-ce que ça peut pas changer le plaisir de la femme?
Eh ben, c'était la question.
C'était la question
que
je n'ai pas osé poser d'ailleurs.
Imagine, tu fais une implantation mammaire. Est-ce que ensuite la femme a la même sensation?
Eh ben, écoute.
Voire plus.
Alors, moi, personnellement.
Certaines, oui.
Ouais, mais moi, personnellement, je préfère avoir une vraie poitrine qu'avoir une fausse poitrine.
J'ai compris.
T'as testé.
Oui, j'ai déjà testé. Et je peux te dire qu'on voit la différence. Et je préfère une vraie poitrine qu'une fausse poitrine.
Je peux confirmer également.
Voilà.
Et oh!
Et vous savez que,
il a touché ma poitrine.
Oui, il a touché les deux.
Hein? Vous savez, après, moi, je suis un grand fan de The Rock, là.
Ah oui. Il a vu,
lui, s'est fait refaire parce que, il s'est fait refaire de la chirurgie.
Il s'est fait faire.
fait faire la chirurgie au niveau de ses pecs. Ah, parce qu'il avait l'impression que ses pecs c'était des seins.
Et ben je connais
parce
quelqu'un
aussi. Parce qu'il y a aussi, beaucoup
ouais.
en
Benjamin
fait
chez Benjamin Castaldi exactement.
Ouais,
c'est ce
beaucoup
que
chez
dire.
Des mecs c'est quand ils font la muscu, mais même moi ça tombe ça et c'est presque du lait quoi.
Mais oh,
tu es un homme
quand même pas.
Un homme peut avoir du lait, bien sûr que oui.
Non mais ça je sais. Non mais je parle de la forme des pectoraux. Il y a certains ils sont quand même mal dans leur peau à cause de ça et se font refaire les pecs.
Moi je voudrais me faire diminuer la verge.
Et je sais pas si c'est vous, mais alors
elle est trop grande.
Il y a une nouvelle mode chez les mecs. Enfin, là, moi, je parle des hommes. Oui. Il y a une tendance. Je sais pas si
Zaza,
tu sais, Zaza aussi. C'est que maintenant, c'est les joues creux comme ça.
Ah oui, les joues creuses.
Oui, mais même relativement chez les femmes.
Mais c'est creux.
On reconnaît bien les frères.
Ah ouais.
Mikey et Stan.
Ouais.
Les joues creuses.
Oui.
Voilà. Alors, les joues creuses et puis la mâchoire carrée.
Et hein. les joues pleines.
Mais t'as pas besoin de faire chirurgie.
Ça, c'est Zaza qui
non, c'est pas moi. C'est Zaza qui a les joues qui s'installe chez les mecs en ce moment. Chez les femmes, je sais pas, mais chez les mecs, ça je sais.
Voilà, donc et puis après je crois qu'aussi il faut savoir oui. s'accepter aussi.
Moi je pense qu'à mon avis c'est ça.
Oui, c'est ça.
On peut pas rester jeune,
mais si t'as un truc, moi je suis pas vraiment d'accord parce que si t'as un truc qui te complexe et que tu supportes
pas, tu l'acceptes.
Non,
mais si t'as les moyens de payer, tu payes
si
quoi.
Si c'est un truc que tu supportes pas, ouais,
si
je
c'est
vois
pire,
pas pourquoi tu devrais.
Si tu passes après que tu supportes pas. C'est comme les anciens gros qui se voient toujours comme des gros alors qu'ils sont comme ça, mais dans leur psychologie, ils sont toujours des gros.
Donc c'est pour ça que j'ai posé la question des psychologues.
Ouais, c'était pas bête, très intéressant.
En général,
ouais.
Très bien, oui. Les gens qui sont blessés par leur taille, blessés par leur.
Ouais,
et
puis finalement,
ils aiment pas leur corps, ils se posent la question dans la tête.
C'est qu'il y a une blessure d'origine. Et donc, l'important, c'est de remonter à l'origine de la blessure.
Et des fois, ça passe, et des fois, c'est des erreurs de jeunesse. C'est quand on est jeune.
Totalement.
Aussi. Et c'est souvent les jeunes qui se.
Les tatouages,
oui, tout ce qui est tatouage, tout ce qui est rhino, tout ce qui est machin. Vous faites ça jeune, après, vous allez le regretter ou vous dire, bon, c'était pas la peine finalement.
Moi, je veux faire
faut s'accepter tel qu'on est.
Non, et puis il y a les moqueries déjà aussi à l'école. Hein.
Et oui, il y a le harcèlement, les moqueries.
Je
ouais, t'as un gros nez. Ouais, nana, ouais, t'es grosse.
Piquette à l'œil, t'as des lunettes, piquette à l'œil.
Moi, je
veux
mais,
faire...
mais le harcèlement, vrai, il existe tout le temps.
Tout le temps.
Tout au long de la vie.
Bah oui,
sauf que c'est plus facile à accepter. C'est plus facile à accepter quand on est adulte que quand on est jeune.
Moi, je veux faire une confidence, les copains.
Ou pas.
J'aimerais faire la chirurgie esthétique parce que je suis trop beau et j'aimerais être un peu plus moche.
Mais tu crois que t'es beau. C'est ça aussi qui est beau.
Oh là là. Non, mais l'excès de confiance c'est aussi énervant que quelqu'un qui
non mais c'est ça, mais justement
elle comprend rien cette blonde.
Je trouve que simplement moi je me réjouis de voir ta
oui.
Zaza, moi je me réjouis de voir ta beauté. Et je vois qu'il n'y a pas besoin de liposuction ou de machin.
Oh, d'aveugle,
c'est clair. C'est ce que tu as
avec l'aveugle.
Qu'est-ce que tu veux faire?
Quel hypocrite.
Non, mais c'est toujours le même problème. C'est que tu peux avoir 15 personnes qui vont me dire « Je te trouve très jolie » ou « J'adore ton corps » ou machin ou truc. Mais oui, mais si toi, c'est parce que tu penses toi.
Mais toi, tu veux écouter.
Ben voilà.
C'est parce que tu penses toi.
Mais il te dit « Reste comme tu es, tu es belle ».
Oui, mais si moi, si... Quand bien même je peux avoir 100 personnes qui me disent
c'est ton corps,
tu
fais ce que tu veux.
Voilà.
C'est ça.
Ouais, si mais... moi je me sens mal à l'aise avec
son corps,
avec un veut. Détail ou
mais
avec
est-ce que tu te sentiras plus à l'aise après le test?
Bah,
c'est
oui,
ça la pense. Question.
Bah oui, si je le fais, c'est pour ça que je le fais.
Bah, on le souhaite.
Après,
les
comme
complexes.
Tu dis, ça joue plus dans la tête aussi. Que
c'est souvent
physique.
Dans la tête.
Mais tu
et
sais,
pas
on dit souvent, on est tous beaux et moches aux yeux de quelqu'un.
Et ben voilà.
Ça c'est vrai par contre.
Bravo.
Bravo. Allez, à tout de suite sur Dynamic Radio. Enfin, le colonel est de retour.
Les perspectives pour 2024.
Perspective 2024. You know this cookie's for the bag. Kitty, kitty, baby, get her things to rest. Cause you done beat it like the 68 Jets. Diamonds are nothing when I'm rocking with ya. Diamonds are nothing when I'm shining with ya. Just keep it white and black as if I'm your sister. I'm too hip to hop around, time to hit with ya. I know I get wow, wow, wow. Wow, 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 thoughts. Wow. Wow, wow, wow. When I'm with you, all I get is wild thoughts.
for the taking. I heard it got these other niggas going crazy. Yeah, I treat you like a lady, lady. Fuck you till you burned out, cremation. Make it cream, yeah, Wu-Tang. Throw that ass back, bouquet. Call me and I could get it, you say. I could tell you gone off the doors. Oh, yeah, yeah. Careful, mama, why what you say? You say. You talking to me like your new bae. New bae. You talking like you trying to do things. Now that pipe gotta run it like she Usain, baby. You made me drown in it, ooh, touche, baby. I'm carrying that water, Bobby Boucher, baby. And hey, you know I'ma slaughter like I'm Jason. Busted, why you got it on safety? White girl, wear it, sit on brown now. I probably shouldn't be around you. Cause you get wild, wild, wild. You looking like it's nothing that you won't do. What you won't do. Hey girl, that's when I told you.
When I was you, all I get is wild thoughts. Wow, wow, wow. Wow, 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 thoughts. Wow, wow, wow. When I was you, all I get is wild thoughts. Wow, wow, wow. When I was you, all I get is wild thoughts.
DJ Khaled. DJ Khaled. DJ Khaled.
Wow, wow.
Dynamique Radio. Dynamique Radio. La radio facile à écouter. Come on.
Dynamique Radio, bonsoir, on est de retour dans la libre antenne. Docteur Loafi, très très sympathique ma foi, et qui nous prévient sur les risques aussi de la chirurgie esthétique. Et c'est très bon et très bien de le savoir. Allez vous renseigner sur les médecins qui pratiquent ces actes. Voilà.
Totalement, non,
totalement, on est d'accord. Il y a rien à refaire chez toi de toute manière.
Ah, arrête.
Voilà. Il est bon, tout, il est bon comme un tracteur tout neuf.
Je prends tout.
Voilà, tout à fait.
Tout la totale.
Colonel, on n'a pas abordé tous les conflits en 2023.
Non, on n'a pas abordé tous les conflits, mais je crois que c'est.
Il y en a tellement.
Quand même important d'aborder ce qui se passe au Moyen-Orient.
Oui.
Je pense que le Moyen-Orient, c'est quand même une poudrière aujourd'hui, et ça a des conséquences sur la vie en France. On l'a vu, puisqu'il y a eu des réactions dans les certains nombre de. Mais non, réaction grave, et donc effectivement des gens qui ont été tués à cause de ces réactions.
C'est
donc,
ça.
Tu parles des bombardements. On va pas rester indifférent. Je pense que là, chaque Français doit se poser des questions. Voilà, pourquoi cette poudrière et qu'est-ce qu'il faut faire?
Et d'ailleurs, quid de Gaza actuellement? Parce que ça fait finalement quelques temps qu'on entend en parler aujourd'hui. Gaza, quid de Gaza?
Je suis absolument choqué par ce qui se passe, et je suis choqué par nos médias mainstream qui manquent de courage, mais totalement sur la réalité des faits. Je vais donner un exemple précis. Entre le 7 et le 14 octobre, 7 déclenchements donc du conflit avec les bombardements par Israël. Et le 14 donc octobre, il y a eu des bombardements intensifs. Ces bombardements, c'est des milliers de tonnes de bombes, beaucoup plus que les bombardements les plus importants contre Dresde pendant la dernière guerre, contre Tokyo pendant la dernière guerre. Donc des bombardements énormes. Okay. En même temps, du 7 au 14 octobre, qu'est-ce qui se passait en Ukraine? Dans les journaux ukrainiens, il y avait marqué « bombardement catastrophique dans telle ville », donc le long de la frontière avec les Russes. Et on regarde les chiffres, il y avait eu simplement 25 bombes qui avaient été envoyées. Et pour eux, c'était inacceptable. Et les journalistes ont dit « mais attendez, c'est inacceptable, en Ukraine, ces bombardements doivent cesser immédiatement ».
Ouais.
Donc, il y a quand même deux poids, deux mesures. Enfin, moi, je me pose des questions. Chaque Français doit se poser la question, est-ce qu'il n'y a pas deux poids, deux mesures?
Est-ce qu'il n'y a pas deux poids, deux mesures? Et un rapide mot sur l'Azerbaïdjan aussi?
Non, mais là, je pense qu'il faut quand même revenir sur Gaza. Gaza, c'est des milliers et des milliers d'enfants et de personnes qui sont aujourd'hui, bah, qui sont tués. Donc, moi, je le redis, il faut avoir la franchise de le dire, eh bien, aujourd'hui, c'est une véritable Shoah pour les Palestiniens.
Ok. Et l'Azerbaïdjan. Rapidement sur l'Azerbaïdjan.
Ah, ouais,
sur l'Azerbaïdjan. Sur le conflit Azerbaïdjan.
Qui arrive,
attends, il y a quelqu'un qui arrive.
Azaza, on en parlera une autre fois.
Non, mais il faut nuancer les propos. Après.
L'Azerbaïdjan.
Ça, c'est
vrai. L'Azerbaïdjan, c'est... Quelle est la caractéristique au niveau pétrole et gaz de l'Azerbaïdjan?
Ah bah ça, c'est une bonne question. Est-ce qu'autour de la table, on a la réponse?
Quelle est la
pétrole et
caractéristique
gaz
en pétrole et gaz de l'Azerbaïdjan?
Il y en a, c'est ça que tu veux nous dire?
Il y en a beaucoup.
Et ça fournit quel pays?
La Russie?
Non, la France.
La France, ah bon.
Voilà. La France, et tout un tas de pays d'Europe, et donc...
Donc c'est un intérêt économique.
C'est un intérêt économique, donc on s'écrase, on dit rien, ils ont balancé 100 000 Arméniens sur les routes, et on a pratiquement rien dit.
La population arménienne est quand même régulièrement touchée hein, par...
Ah mais c'est une horreur, parce qu'entre les Turcs, avec les massacres qui ont eu lieu donc par les Turcs il y a quelques années, et puis je dirais l'Azerbaïdjan, bon aujourd'hui on voit bien que ces populations sont vraiment très durement touchées. Et donc la question se pose, mais pourquoi a-t-on accepté que ces gens qui habitaient là depuis des millénaires, quand je dis des millénaires, c'est-à-dire que il y a une caractéristique donc en Arménie, dans cette zone du Haut-Karabakh, il y a des églises et des chapelles qui datent de 2000 ans. Donc de l'époque juste post, je dirais, Christ. Et ça, c'est leur pays, ils n'ont pas bougé. Et aujourd'hui, on les balance. Posez-vous la question, est-ce que c'est normal?
Non, mais il y a de l'argent en jeu. Donc bon, on se tait.
Voilà, les peuples.
Voilà. Bien conclu, hein.
Bah, il a bien conclu, hein. Il y a le Sahel. Le Sahel, qu'est-ce qui s'est passé la semaine
France,
dernière?
Ah, là, je sais pas la semaine dernière, mais durant cette année 2023, il y a un désengagement aussi de la France dans les pays du Sahel.
Désengagement de la France. Il y a surtout eu des petites révolutions, je dirais, organisées
avec
contre la France au Burkina Faso, avec un capitaine qui a pris le pouvoir, au Mali où les Français ont été mis dehors et les Américains sont restés avec leur base. Et puis au Niger, même chose. Et c'est vrai que le Niger, c'est des mines d'or, des mines d'uranium, des mines d'un certain nombre, je dirais, d'éléments importants pour la construction, je dirais, aéronautique, spatiale, électronique, informatique. Et donc ces trois pays viennent de prendre la décision, donc la semaine dernière, de faire quoi?
De faire quoi?
Alors, qu'est-ce qu'ils ont décidé de faire, ces trois pays, la semaine dernière?
Alors là, bonne question.
De tirer une croix avec la France?
Eh bien, non, ces trois pays, le Mali, le Burkina Faso et le Niger, ont décidé de créer une confédération.
Ah, donc
De s'allier.
De s'allier.
Voilà, de se confédérer.
Faire une alliance. Ok. Ouais.
Sous la houlette de qui?
Des Russes?
Les Américains.
Les Américains.
Les Américains vont...
Les Américains.
Ils vont tout bouffer.
Ah, bravo.
USA.
Forever.
Et
Never.
Il faut aller aux États-Unis, là, on va être baisé en France.
Et en même temps, on n'oublie pas qu'effectivement, en Argentine, sous la houlette des Américains,
pour conclure cette année.
Les Argentins ont décidé de se dollariser et que la monnaie d'Argentine serait ajustée au dollar.
Exactement. Bah voilà, on a tout dit.
Ça, c'est,
Je pense que ça va aller de mieux en mieux dans ce monde.
Et ben, on va poser la question maintenant, colonel. Si on pouvait sortir un peu la boule de cristal, là, pour 2024, qu'est-ce qu'on dirait?
Donne-nous des bonnes nouvelles.
Je pense que il y a des bonnes nouvelles, c'est les conséquences des accords entre l'Iran et l'Arabie Saoudite, ça s'est fait sous le parrainage de la Chine. Donc c'est extrêmement puissant. C'est la première fois que la Chine, au niveau diplomatique, s'engage. Et donc, elle appuie un accord. Alors c'est sûr qu'il y a la route de la soie, mais en même temps, il y a bien d'autres raisons, en particulier le nucléaire. Comme tout le monde le sait, les rétentions qui ont été menées par les Américains et avec imposition des Américains, par les Européens contre l'Iran, c'était pour empêcher l'Iran de se doter
de l'arme nucléaire.
Pas de l'arme nucléaire, même de centrales nucléaires et ensuite d'armes nucléaires.
Oui.
Donc ça a été une politique affichée, comme les Américains ont affiché aussi une politique vis-à-vis de Saddam Hussein en disant qu'il faisait des armes de destruction massive.
Oui, ce qui n'était pas...
Sans aucune preuve à l'appui. Oui. Bon. De même, là, ce qui se passe, c'est que les Chinois se mettent au milieu. Ça veut dire, en gros, les Chinois, ils tapent du poing sur la table, ils disent aux Américains, vous arrêtez, parce qu'on en a marre. Ce que veulent les Chinois, c'est pouvoir avoir un commerce facile avec tout le monde, et ils ne supportent pas la guerre. Les Chinois ne supportent pas la guerre.
Oui, ça, on tient à le préciser. Ils n'ont jamais fait la guerre, les Chinois, en fait.
Ils sont capables de faire la guerre, mais ils ne la supportent pas. Et ils ont été humiliés par les Britanniques quand il y a eu la fameuse guerre, donc, en Chine, il y a au début du siècle dernier. Et donc, de ce côté-là, aujourd'hui, ils ont tiré des leçons, et ils voient ce que font les Américains, ils disent, nous, on veut pas ce système-là. Et ils sont alliés dans le cadre des BRICS. Et donc, dans le cadre des BRICS, ils ont mis une alliance, pour effectivement que ça ne soit plus le dollar en particulier, qui soit la monnaie pour payer le pétrole, le gaz dans tous les pays du monde, sachant en plus qu'il y a eu des entreprises françaises qui ont été condamnées aux États-Unis parce qu'ils avaient fait des contrats en dollars, à cause de ce contrat en dollars, ils ont perdu des millions, à la BNP en particulier, des millions et des millions. Donc la question se pose aujourd'hui de voir que le poids de la Chine, pour l'instant, protège l'Iran, protège l'Arabie saoudite et protège, je dirais, l'ensemble des pays du Golfe indirectement. Alors, il reste le poids des Américains encore en Arabie saoudite, mais c'est en train de changer. Le poids des Américains, il est lié aux militaires. Et le lobby militaire américain a effectivement pour 18% du 18% des ventes de militaires dans le monde des États-Unis, c'est en Arabie saoudite. Donc c'est une grosse quantité. Et aujourd'hui, c'est en train de baisser. Et c'est vrai que dans les différentes économies donc de l'Arabie saoudite et de l'Iran, eh bien, la Chine prend une place importante maintenant. Donc ça, c'est quand même une pression exercée avec une alliance avec l'Inde qui fait que même si on reste très poli par devant, par derrière, ça veut dire on va pas se laisser faire. Et les Américains, je pense, ont entendu le message, mais en même temps, ils continuent, les Américains, à vouloir dominer et à vouloir empêcher, effectivement, qu'il y ait, je dirais, une certaine liberté par ces pays. D'où l'Argentine. Ils empêchent effectivement l'Argentine de fonctionner autrement qu'avec le dollar.
Voilà, vous l'aurez compris. Hein. Et donc 2024, peut-être un conflit larvé entre la Chine et les États-Unis.
Non.
Peut-être un règlement du conflit ukraino-russe.
Bah, j'espère pour
peut-être, et quid de la France dans tout ça? Quid de l'Europe aussi? Parce qu'on parle de la Russie, on parle de la Chine, on parle des Américains, mais on parle jamais de l'Europe. Et finalement, de construire une Europe, ça peut peut-être aussi te permettre de devenir une grande puissance.
Elle est plutôt divisée.
Ne pas dépendre de qui, de l'un ou de l'autre.
Elle est divisée.
Et les Américains se sont débrouillés pour la diviser aussi. Et
oui.
Donc aujourd'hui, je pense qu'il faut que la France reprenne la main, en particulier en matière de diplomatie, parce que la capacité de la France en matière de diplomatie au niveau, je dirais, depuis plusieurs
du
siècles,
monde.
Était bien connue,
ouais, du monde
et
entier.
Que vouloir arrêter, je dirais, de mettre notre savoir-faire au service de l'Europe a conduit à ce qu'effectivement on laisse les autres qui n'ont pas cette compétence-là prendre des décisions qui sont contraires aux intérêts de l'Europe.
Donc la voix de la France doit porter dans le monde. Et voilà, ça sera la conclusion pour 2024. À travers Colonel, on essaiera de porter la voix de la France également chaque semaine dans la libre antenne. Écoutez, on va se quitter bientôt.
Déjà.
Et oui, une belle et longue émission. Voilà. Alors, bah, c'est le moment de nous quitter parce qu'on se reverra.
Jamais.
Pas la semaine prochaine, ni la semaine suivante,
jamais.
Mais début janvier, voilà, pour une prochaine libre antenne. Alors,
bon, on se voit demain déjà.
Alors, oui, mais les auditeurs, les auditeurs, ils te voient demain.
Ils peuvent venir nous manger avec nous.
Oui,
hein.
Bah, on fera un live sur les réseaux qu'on balancera. Alors, c'est quoi les bonnes résolutions de l'équipe de la libre antenne alors?
Oh là là.
Hein, l'année prochaine pour Mikey, qu'est-ce qu'il veut Mikey pour l'an prochain?
Rien.
Il est bien comme il est. Alors.
Ah ouais.
Voilà, ça c'est fait.
Isa, Zaza.
Ah bah comme d'hab, hein, moi je demande toujours la même chose au Père Noël, mais
de
il
l'amour.
M'a pas encore
de l'amour.
Exaucé.
Mon prince charmant.
De l'amour.
Une teub H24.
Oui. Non, de l'amour j'ai dit, j'ai pas l'amour. Dit du sexe.
Est-ce que t'es sûr que
sans
tu veux ça?
De l'amour.
Oui, je suis sûr que je veux ça.
Est-ce que t'es belle? Comment ça fait que tu restes pas?
Mikey, on va vous laisser, tu verras ça en rentrant. Stan, pour l'année prochaine.
Ah bah écoute, je signe beaucoup de contrats.
Que tu signes beaucoup de contrats,
voilà. De transactions. Comme d'hab, voilà. Comme d'hab, lui, c'est argent.
Ou alors tu signes un contrat CDI, point barre. C'est plus simple.
On te le souhaite en tous les cas, comme ça tu perdras pas ton temps.
Ouais.
on enchaîne aussi avec Yann.
Moi, on va faire classique, mais moins d'alcool. Hein.
Moi,
ah ouais, carrément.
L'alcool, quoi.
Je pensais que t'allais dire.
Il est énorme. Il est énorme.
Je pensais que t'allais dire plus de comédie pour moi.
Non, moins d'alcool. Moins d'alcool et plus de comédie.
Oh là là. Et plus d'accueil de l'autre dans sa diversité. Plus d'accueil et plus de joie pour accueillir chacun tel qu'il est.
Oui. Voilà, accueillir.
Et il y a du boulot.
Finalement, c'est ce que je fais chaque semaine. En accueillant des gens, aussi divers qu'et variés. Entre un alcoolique, un menteur, une baiseuse.
Et joyeux Noël. Joyeux Noël à tous.
Et toi?
Ah, bah, moi, je souhaite que, bah, finalement, que la radio ne s'arrête jamais. Qu'on puisse en faire dès l'année prochaine. Et si je peux perdre un ou deux kilos d'ici janvier.
Un message de paix et d'amour. C'est ça.
Pas gagné, quoi.
Et un message. Et un message de paix et d'amour. Et ça, finalement, c'est ça parce que bah vous nous entendez hein,
parce que si tu sais
on se fricote on se bat, s'engueule mais quelque
mais on
part
s'aime
on s'aime
même.
Beaucoup
je rejoins Henri parce que si l'océan est grand plus aimant c'est l'amour
Et ben voilà, allez, belle soirée sur Dynamique Radio.
Alléluia. Amen, alléluia.
On revient lundi aussi dans l'After School.